Une biographie de William Penn, préface de l'éditeur du site. Cette biographie est inclue afin de conserver une trace de la vie de William Penn, le Quaker le plus célèbre d'Amérique, et un objet de curiosité pour beaucoup d'Américains, en particulier les Pennsylvaniens. Penn fut un homme d'État et un éminent ministre chrétien qui, de manière unique, conquit une terre sauvage sans armes à feu, établit la paix avec les peuples autochtones par la bonté et l'amour, et fonda un gouvernement dont les principes posèrent les bases de la Constitution et du gouvernement des États-Unis. Il fut un défenseur des Indiens, des esclaves noirs, des droits des femmes, de l'éducation des enfants, de la réforme pénale, des droits individuels, de la liberté de religion et de la vertu chrétienne. Penn choisissait de passer son temps en Pennsylvanie, mais il fut surtout contraint de gouverner la Pennsylvanie à distance, tout en s'employant à soulager les injustices faites aux Quakers en Angleterre. Il éprouvait un profond amour pour l'Amérique comme pour l'Angleterre, mais préférait de beaucoup ses jours en Amérique. C'est un récit singulier des accomplissements et des épreuves de Penn dans la sphère séculière, tout en montrant la profondeur de son ministère chrétien et de son engagement. 4 biographies ont été compilées, comprenant plusieurs citations d'autres biographies antérieures. Les 4 sont Penn de Rupert S. Holland, True Penn de Sidney G. Fichier Penn and Pennington's de Maria Webb et Passage from the Life and Writings of William Penn. J'ai modernisé la langue et ajouté, le cas échéant, des explications de la foi Quaker. Holland et Fichier, tout en étant apparemment doués pour relater l'histoire naturelle, ont montré une incompréhension fondamentale du mouvement spirituel Quaker des débuts et de sa doctrine. Holland a même, de manière grave, assimilé les Quakers aux puritains, leurs plus grands persécuteurs et meurtriers. Les puritains s'efforçaient d'éviter tout ce qu'ils considéraient comme péché, tandis que les Quakers marchaient dans l'amour, selon ce que leur enseignait leur maître intérieur, Christ. Ainsi, l'accent des puritains portait sur l'évitement du péché, tandis que celui des Quakers portait sur l'obéissance et le désir de plaire à leur bien-aimé. C'étaient deux esprits entièrement différents, l'un dur et jugeant, l'autre aimant et obéissant, l'un centré sur la loi extérieure, l'autre centré sur l'amour intérieur. Pourtant, beaucoup de gens du monde les voyaient et les voient encore comme identiques. Par exemple, les puritains disaient que jouer aux cartes était un péché, tandis que les Quakers disaient que c'était une perte de temps qui pourrait être consacrée à chercher à entendre et à obéir à leur bien-aimé. Beaucoup de récits historiques de la vie de Penn semblent se concentrer sur les malheurs de son existence et attribuent fréquemment des torts, en particulier ceux des auteurs laïcs qui semblent ne pas comprendre les fondements de la foi Quaker et n'avoir aucune appréciation des efforts infatigables de Penn dans son ministère. Ils paraissent prendre plaisir à chercher des pieds d'argile. Les principaux axes d'attaque contre son bilan sont 1. Critique, il possédait des esclaves en Pennsylvanie. Réponse, vrai, mais il les a tous affranchis, 190 ans avant la guerre de sécession, leur donnant leur propre terre afin qu'ils puissent en vivre, et il a travaillé d'arrache-pied au sein de l'Assemblée législative coloniale pour faire interdire l'esclavage en Pennsylvanie, tout en réussissant à convaincre les autres Quakers de Pennsylvanie propriétaires d'esclaves d'affranchir eux aussi leurs esclaves. 2. Critique, il a fait de la politique avec son ami Jackie. Réponse, il était l'unique lobbyiste des Quakers obtenant de nombreuses grâces du roi, dont une qui aboutit à la libération de 1300 Quakers emprisonnés, certains l'ayant été pendant 12 à 15 ans pour avoir refusé de prêter serment ou de payer la dîme. Quelques années auparavant, 500 étaient morts en prison. Il ne se complaisait pas dans ce rôle de lobbyiste, il déclarait, tout au long de ses écrits, souhaiter ardemment être de retour en Pennsylvanie. 3. Critique, il s'est caché lorsque le roi Guillaume a succédé à son ami le roi Jacques, et il a été deux fois impliqué dans des complots visant à rétablir Jacques. Réponse, les récits divergents. L'un affirme qu'il s'est rendu à plusieurs reprises auprès du roi Guillaume et l'a convaincu qu'il n'avait part à aucun complot, mais comme le conseil se méfiait de Penn, il fut assigné à résidence pendant plusieurs années et ses biens furent confisqués. L'une des personnes qui l'incrimina était un ancien ennemi acharné, une autre fut plus tard condamnée pour parjure par le Parlement. Quoi qu'il en soit, tous ses biens furent restitués et son retour à une vie publique normale fut approuvé par le roi et la reine, une telle approbation étant très improbable s'il avait été coupable, ou même s'il s'était caché tout en étant innocent. 4. Critique, il est allé en prison pour dette. Réponse, dès qu'une dette ne pouvait être payée, l'emprisonnement pouvait être imposé. Vers la fin de sa vie, sa dette fut fabriquée par un subordonné malhonnête en Pennsylvanie qui, bien que se disant Quaker, refusa l'arbitrage Quaker et saisit les tribunaux civils, provoquant l'emprisonnement de Penn. Penn était incapable de payer et d'éviter la prison parce qu'il avait épuisé toute sa fortune pour soutenir la Pennsylvanie. Il passa 9 mois en prison, et fut finalement libéré par ses amis compatissants, qui réglèrent la dette pour obtenir sa libération. S'il était coupable de quelque chose, c'était d'avoir trop fait confiance à son prochain. 5. Critique, c'était un hypocrite, prêchant une vie simple tout en vivant dans le luxe. Il critiquait sa maison en Pennsylvanie, la taille de ses écuries, son bateau équipé pour 4 rameurs, et le fait qu'il ait eu à Londres un carrosse attelé de 4 chevaux lorsqu'il faisait du lobbying à la cour du roi Jacques, etc. Réponse, tout ce qu'il possédait était nécessaire à ses occupations. On s'attendait à ce que le gouverneur de Pennsylvanie reçoive un grand nombre de personnes dans sa maison. On ne pouvait guère s'attendre à ce qu'il rame lui-même lorsqu'il se déplaçait en bateau le long des rivières de l'Amérique coloniale, où se trouvaient les principales villes de Pennsylvanie, du New Jersey, de New York, du Maryland, etc. Et il avait un carrosse avec des chevaux à Londres parce que c'était nécessaire à la vie très active qu'il menait en tant que ministre Quake et conseiller du roi Jacques. D'après la parole du Seigneur au-dedans, ce n'est pas un péché de jouir des commodités de la vie nécessaires à votre occupation. Toutes ces critiques viennent de personnes qui semblent chercher n'importe quoi pour rabaisser la stature de peine, probablement par envie, et pour apaiser leur propre culpabilité, lorsque l'on mesure l'ampleur des accomplissements et l'intégrité de peine. Extrait de De Truppen de Sidney George Fichet, au sujet des qualités de peine en tant qu'autorité séculière dans l'histoire. Penn connaissait un peu le latin et correspondait dans cette langue avec Soul, l'historien Quake. Il étudia aussi le grec, naturellement, comme tout homme d'Oxford, et il semble qu'il connaissait le français, l'allemand et le néerlandais suffisamment bien pour les lire et les parler. Il apprit aussi les langues de plusieurs tribus indiennes de Pennsylvanie. Il lut abondamment en théologie, en gouvernement et sur tous les sujets de son temps, comme le montrent amplement ses écrits. Mais la preuve la plus frappante de l'étendue de ses lectures se trouve dans certains de ses essais ou pamphlets, auxquels il a ajouté des citations et des références à tous les auteurs anciens et modernes qu'il pouvait trouver pour étayer ses thèses. Dans son traité des serments, on dénombre plus de 50 occurrences où il cite les mots ou expose l'opinion de quelques philosophes ou hommes d'État grec ou romain, ou de quelques saints ou pères de l'Église. Dans la seconde partie de No Cross, No Crown, il y a plus de 130 occurrences de ce type, et elles s'étendent de l'Antiquité la plus reculée à travers les jours de la Grèce et de Rome, les hommes éminents du Moyen Âge, jusqu'aux hommes de son propre temps en Angleterre. Le travail de recherche dans les bibliothèques de l'époque dut être très grand, et il n'aurait pas pu rassembler de telles masses pour les occasions particulières où il les utilisa, s'il n'en avait pas déjà une certaine connaissance générale. Il est facile de voir, dans sa vie et son caractère, qu'il fut inspiré par ce labeur. Il aimait les pensées grandes et nobles, les vastes idées d'amélioration et de réforme à l'échelle du monde. Cette passion le conduisit à lire la vie de tous ceux qui avaient été remarquables, et leurs paroles qui remuent l'âme, et l'enthousiasme de leur réussite, ou l'héroïsme de l'échec ou de la défaite, stimulèrent à des sommets encore plus élevés la passion qui l'avait amené à cette étude. Il faisait manifestement partie de ceux qui étudient l'histoire largement à travers les biographies, et si l'on souhaite être éveillé et inspiré, c'est assurément la meilleure méthode à suivre. Par son inclination naturelle et ses études, il avait rempli son esprit de toutes les idées les plus progressistes et philanthropiques qui aient été suggérées dans tout le cours de l'histoire humaine écrite. Il connaissait tous les hommes distingués de l'Angleterre de son temps, et beaucoup, il les connaissait très intimement. Il voyagea, en Angleterre comme à l'étranger, davantage que la plupart des gens de cette époque. Il naquit et fut élevé parmi l'aristocratie, et fréquenta toujours librement ses membres, et, en tant que Quake, il devint très proche des classes moyennes et populaires. L'admirable curiosité de Fichet ne l'empêcha pas de reconnaître les accomplissements séculiers visibles de Penn, qui furent considérables. Les Indiens de Pennsylvanie avaient souvent, avant et après, entendu de belles promesses. Mais Penn tint les siennes, non seulement à ses yeux ou aux yeux de ses partisans, mais aux yeux des Indiens. Il vécut dans leur wigwam et apprit leur langue. À mesure que 10, 15, 20 et 30 ans s'écoulaient, et que les Indiens constataient que chaque mot du traité était tenu par Mignon, comme la tribu des Delaware l'appelait, ou Ona, comme l'appelaient les Iroquois, la renommée de l'unique homme blanc et chrétien capable de garder sa foi envers le sauvage se répandit au loin, et le sauvage porta sa renommée de l'autre côté de l'Atlantique. Ce que Penn avait décrit, en planifiant la Pennsylvanie, comme une sainte expérience, devint réalité. Vivre en paix aimante avec les Indiens laissa les habitants de Pennsylvanie libres de poursuivre des activités productives, tandis que les colonies voisines s'épuisaient dans leur guerre incessante contre leur population indienne. Grâce à cette paix et à l'éthique des Quakers, la colonie relativement jeune de Pennsylvanie dépassa rapidement ses colonies voisines plus anciennes. En France et sur le continent européen, les grands hommes et écrivains s'emparèrent de la sainte expérience de Pennsylvanie comme de l'événement le plus remarquable de l'époque. Pour ces hommes, élevés dans la version romaine du christianisme et habitués aux atrocités et horreurs infligées par Corte et Pizarro aux indigènes d'Amérique du Sud, l'idée d'un chrétien gardant sa promesse sans y manquer pendant 40 ans envers des Indiens païens était un idéalisme devenu réalité. C'était comme un rafraîchissement dans un grand désert lassant. Qui était cet homme, et quel étrange genre de chrétien était-ce qui tenait parole aux païens, qui avait fait ce qui n'avait jamais été fait auparavant, et qu'on supposait ne jamais devoir être fait? Voltaire fut ravi, et dès lors il aima les Quakers, il envisagea même d'aller vivre en Pennsylvanie parmi eux. Penn se dressa seul, et au-dessus de tous ces, pour ce qui concerne les États-Unis, il est resté seul depuis lors. Aucun de nous, certainement pas notre gouvernement à Washington, n'a jamais tenu sa foi envers les Indiens pendant une période de 40 ans. Pourtant, ni Penn, ni les amis associés à lui, n'avaient conscience de faire autre chose que ce qu'exigeait la simple morale chrétienne et la fraternité humaine. Il exhorta les colons de Pennsylvanie à faire de leur prison non seulement des lieux de contrainte, mais des ateliers et des maisons de réforme, et de ce fait, les prisons de Pennsylvanie furent bien mieux administrées que celles des autres colonies. Il introduisit l'usage d'avoir un veilleur de nuit parcourant les rues, annonçant l'heure, l'état du temps et toute nouvelle d'intérêt. De bien des manières, il améliora les conditions, montrant qu'il avait un véritable génie pour gouverner et un désir intense de faire de sa province un lieu idéal où vivre. Penn affranchit tous ses esclaves en Pennsylvanie, 190 ans avant la guerre de sécession, et se battit avec acharnement au sein de l'Assemblée législative de Pennsylvanie pour faire interdire l'esclavage, tout en encourageant les autres Quakers de Pennsylvanie à affranchir volontairement leurs esclaves, ce qu'ils firent bientôt. En 1688, sous l'impulsion et la direction de Penn, la Pennsylvanie adopta une résolution anti-esclavagiste dans son organe de gouvernement colonial, amorçant le long déclin de l'esclavage en Amérique. Les idéaux de Penn influencèrent même la Constitution des États-Unis dans sa séparation des pouvoirs, la séparation de l'Église et de l'État, et la Déclaration des droits des États-Unis. Le Frame of Government de William Penn pour la Pennsylvanie mit en œuvre un système démocratique avec une pleine liberté de religion, la protection contre l'emprisonnement injuste, des procès équitables, des représentants du peuple élus au pouvoir, et une séparation des pouvoirs. En avance sur son temps, Penn proposa aussi un plan écrit pour des États-Unis d'Europe. Les vues de Penn concernant la punition et la prévention du crime étaient conformes aux bienveillantes prescriptions du christianisme. La réforme des criminels, tout autant que la protection de la société, devrait être l'objet de la justice punitive, mais, sous le code barbare alors en vigueur dans toute l'Europe, la vengeance semblait être l'objectif principal, et les exécutions publiques étaient effroyablement nombreuses. Il se trompe faiblement, observe William Penn, ceux qui pensent que le gouvernement n'a pas d'autre usage que la correction, qui en est la partie la plus grossière. Donner à chaque enfant les moyens d'une bonne éducation, et veiller à ce que tous apprennent un bon métier ou une profession, ferait davantage pour promouvoir la paix et le bonheur que tout l'appareil des tribunaux et des prisons. Les principes qui animaient les amis qui émigrèrent en Pennsylvanie et dans les autres provinces américaines sont exposés dans une publication contemporaine, appelée le Planter's Speech prononcé par Penn, comme suit. Les motifs de notre retrait vers ces nouvelles demeures, je les comprends comme ayant été le désir d'une vie paisible, où nous pourrions adorer Dieu et obéir à sa loi en liberté, selon les dictées du principe divin. Notre tâche, par conséquent, dans cette nouvelle terre, n'est pas tant de bâtir des maisons et d'établir des manufactures, et de promouvoir le commerce et l'industrie, qui pourraient les enrichir bien que toutes ces choses à leur place ne doivent pas être négligées, que d'élever des temples dans le cœur des hommes de sainteté et de justice, auxquels Dieu puisse prendre plaisir, de poser des cadres et des fondations durables de tempérance et de vertu qui puissent soutenir la superstructure de notre bonheur futur, en ce monde et dans l'autre. Pour le reste de la vie de Penn, nous le trouvons très activement engagé comme organisateur et ministre des Quakers, leur défenseur contre la persécution, homme politique, courtisan, fondateur d'une colonie, et subissant de grandes pertes de fortune, tout en servant fidèlement son maître et roi, le Seigneur Jésus-Christ, du mieux de son corps, de son esprit, de son âme et de son cœur, et avec de grands accomplissements. Penn était un géant et un magnifique serviteur de Dieu. Penn choisit peut-être la voie la plus difficile possible pour un homme chrétien, celle d'un chrétien obéissant en tant que dirigeant d'un gouvernement. Avec un courage que je ne puis imaginer, Penn se fraya un chemin à travers les décisions, les négociations, l'administration et le gouvernement d'une région de la taille de l'Angleterre, avec foi en son Dieu et des actions demeurées fidèles aux principes chrétiens. Pendant plusieurs années, entre ses visites en Pennsylvanie, Penn servit de lobbyiste quaker auprès du roi Jacques, l'avertissant et l'exhortant dans son gouvernement, en particulier pour la défense des opprimés et pour la politique gouvernementale liée à la religion. D'une terre sauvage, il tailla une colonie qui surpassa rapidement ses voisins coloniaux plus anciens, tout en créant et en maintenant une paix avec les Indiens qui ne fut jamais égalée. Il marcha sur le fil du pouvoir séculier avec une humilité chrétienne, peu pouvaient même approcher ses accomplissements séculiers, et rares seraient ceux qui pourraient égaler en même temps sa constance dans la vertu chrétienne. Il avait les accomplissements d'un César, mais avec la bonté et la douceur du plus grand serviteur, son Seigneur Jésus-Christ. En vérité, il était d'une noblesse chrétienne que nous ne reverrons peut-être jamais dans l'histoire. William Penn d'après une planche de Genot, Frost LL. Des chapitres Il époque pendant près d'un demi-siècle, le roi s'était efforcé avec acharnement de renforcer le pouvoir et les privilèges de la couronne contre le Parlement et le peuple. Jacques Yé s'y était montré très appliqué, et la tyrannie progressait malgré les luttes frénétiques et spasmodiques du peuple contre elle. La tyrannie grandissait parce que l'Angleterre grandissait et que sa puissance grandissait. À mesure que l'île se civilisait de plus en plus et commençait à prendre place parmi les nations, l'organisation devenait de plus en plus nécessaire. Un gouvernement régulier et méthodique devait succéder à la liberté aisée, noble et virile qui était instinctive chez les descendants des Vikings, des Angles et des Saxons. Les partisans du roi et tous ceux qui admiraient la monarchie absolue, ou aimaient les charges et le pouvoir, profitèrent de cette nécessité pour développer la royauté et une église établie par la loi, et pendant longtemps, ils y réussirent très bien. D'autres choses, cependant, croissaient en plus du pouvoir royal et de l'Église d'Angleterre. Le grand mouvement de la réforme, né de l'invention de l'imprimerie et du renouveau des études, stimulait encore la pensée indépendante, éveillant et encourageant toujours davantage les sectes puritaines, et les amenant à voir leur intérêt à développer les anciennes libertés anglo-saxonnes, comme les royalistes voyaient leur intérêt à développer le pouvoir du roi. Étrange créature que ces puritains et autres sectes, qui n'avaient que récemment brisé les entraves du Moyen Âge et commencé à penser par eux-mêmes, du système médiéval, qui ignorait entièrement la Bible, ils s'étaient précipités vers l'extrême opposé, l'acceptant si littéralement qu'ils donnaient à leurs enfants les étranges noms anglais qu'ils trouvaient dans l'Ancien Testament. De l'Église de Rome, qui gouvernait en monarchie absolue et gouvernait trop, les presbytériens avaient réagi vers un système de gouvernement ecclésiastique représentatif ou républicain, composé d'assemblées électives et de synodes, tandis que d'autres, les indépendants et congrégationalistes, avaient réagi vers le principe qu'il ne devait y avoir aucun gouvernement général de l'Église, et que chaque congrégation devait être sa propre loi en matière de doctrine et de discipline. Des excès du culte des images et du ritualisme, ils en étaient venus à abolir tout rituel, les ornements et les images, adoptant la prière improvisée au lieu de prière lue dans un livre, et prêchant à une assemblée assise entre quatre murs nus. Ils étaient austères dans leur manière, ils se disciplinaient jusqu'à haïr tous les divertissements et plaisirs. Ils ne voyaient que le côté terrible de la religion, ils se convainquirent du péché originel, avec lequel tout homme naît, et pour lequel l'immense majorité du genre humain serait brûlée éternellement en enfer par un dieu courroucé qui, pour satisfaire sa colère et son plaisir, les avait prédestinés à leur sort, malgré les bonnes actions et les œuvres qu'ils pourraient accomplir sur terre. Commentaire de l'éditeur du site. La prédestination était la doctrine de Calvin, père des presbytériens et des puritains indépendants congrégationalistes, et il eut aussi une grande influence sur les baptistes. Comme la Bible fait référence au fait que Dieu avait connu d'avance les élus, ils en concluaient que Dieu devait avoir ordonné leur réussite au ciel et l'échec de tous les autres en enfer, mais ils ne tiennent pas compte du fait que, puisque Dieu peut voir au-delà du temps, il savait comment chacun finirait par ses propres choix. Ils encourageaient tous les sentiments sombres et lugubres, qui étaient, pensaient-ils, les seuls compatibles avec la religion. Ils s'appuyaient sur des expériences intérieures et des sentiments de conversion pour remplacer les dogmes et les formes qu'ils avaient rejetées. Ils entraînaient leur visage à se conformer à leurs sentiments, prenaient des expressions aigres et malveillantes, gignaient, gémissaient et traînaient les mots. Ils étaient accompagnés de sectes plus petites, aux esprits encore davantage déformés par la liberté nouvelle de l'époque. Un exemple célèbre était celui des hommes de la cinquième monarchie, qui croyaient que le Christ allait venir établir un royaume terrestre pour 1000 ans. Ils étaient des individus désespérés et dangereux, car lorsque la rage de leur croyance s'emparait d'eux et qu'ils pensaient le royaume sur le point d'arriver, ils se battaient comme des démons, attaquant la milice et les soldats avec la plus grande fureur et n'épargnant aucune vie. Pépys raconte comment 31 d'entre eux, criant « Le roi Jésus et les têtes sur les portes, cela mit tout Londres en terreur. Ils mirent en déroute les trimbants compagnies de milices, firent fuir la garde personnelle du roi, franchirent les portes de la ville, tuèrent 20 hommes, et amenèrent chacun à croire qu'ils étaient au nombre de 500, tandis que chaque chef de foyer s'armait et que 40 000 hommes se tenaient prêts à s'opposer à ces fanatiques féroces. Journal de Pepys Head, 1893 vol, ipp. 319-322. En contraste frappant avec ces sectes étranges se trouvaient les royalistes, qui soutenaient le roi et l'Église d'Angleterre, avec ses cérémonies et rituels romains familiers, et son adoption de quelques idées de la Réforme. Amateurs de plaisirs et de fêtes, dévoués aux sports et aux divertissements, s'habillant de façon fantasque, comme cela semblerait aujourd'hui en couleurs vives avec beaucoup de rubans, les cheveux longs et des barbes pointues, et d'autant plus dévoués aux plaisirs, au théâtre, aux jurons, à la gaudriole et à la promiscuité, autant de pratiques interdites par le puritanisme. Un long et terrible conflit était inévitable entre ces éléments. Comment combiner l'ancienne liberté avec les nécessités d'un gouvernement hautement organisé, et avoir à la fois la liberté et le gouvernement, tel était le problème dont la solution allait déchirer et tourmenter l'Angleterre pour le reste du siècle. Astérisque durant cette période, qui couvre en fait la vie de William Penn, la « liberté », comme l'a exprimé Tennyson, s'élargit lentement de précédent en précédent, lentement décrit à peine ce mouvement. Il fut très lent, souvent une stagnation et parfois un recul, et la relation de Penn à ce mouvement, qui est encore un mouvement, est la partie la plus importante de l'histoire de sa vie. Car il mit en œuvre des idées et des institutions dont nous bénéficions aujourd'hui. Astérisque plus tard dans sa vie, William Penn exprima profondément cette énigme, « La liberté sans obéissance est le chaos, l'obéissance sans liberté est l'esclavage. » Charles Yé, qui succéda à Jacques Yé en 1625, porta le pouvoir royal à des sommets encore plus élevés. Il leva des taxes et des droits comme bon lui semblait, sans autorité légale, et gouverna pendant de nombreuses années sans aucun parlement. En fait, il éclipsa complètement et pour un temps, détruisit les anciennes libertés et porta la royauté à son apogée et à son point culminant de pouvoir. De la même manière, réagissant contre tout l'esprit de la Réforme, il renforça l'Église établie. Beaucoup le croyaient catholique dissimulé, ayant épousé une catholique. Apparemment, il existe des documents sur son accord avec le roi de France au sujet de troupes destinées à réprimer toute rébellion lors de son rétablissement de l'Angleterre sous l'autorité du pape. Ses actes étaient plus catholiques que protestants. Il nomma l'aude archevêque de Canterbury, et l'aude devint la terreur et l'objet de la détestation des puritains, remplissant les églises d'images, de cérémonies élaborées, et infligeant des châtiments dégradants aux clergés enclins aux voies puritaines. Ils étaient emprisonnés, fouettés, on leur coupait les oreilles, on leur fendait le nez, et on marquait leurs joues au fer rouge. Un puritain nommé Prynne fut placé au pilori, perdit ses deux oreilles et fut emprisonné à vie, simplement parce que ses écrits condamnaient les bals, les théâtres et d'autres amusements de la cour. La réaction de Charles Yé contre la Réforme provoqua une contre-réaction de la Réforme elle-même, car tandis que le despotisme grandissait parmi les royalistes à la cour, un républicanisme débridé se répandait parmi le peuple. Charles Yé tenta d'imposer le rituel et les cérémonies de l'Église d'Angleterre aux Écossais presbytériens, et lorsqu'ils se soulevèrent en rébellion et s'en prirent aux évêques, il convoqua un parlement pour qu'il lui accorde une armée avec laquelle les réprimer. Il n'y avait pas eu de parlement depuis 11 ans, et le nouveau était rempli d'hommes du type de Cromwell et Hampden. Ils mirent en accusation et firent exécuter Laud et Stafford. Ils abolirent les tribunaux ecclésiastiques qui punissaient les puritains. Ils s'emparèrent violemment de tous les droits qu'ils avaient si longtemps affirmé posséder. Ils renversèrent complètement la situation, et au lieu que le roi gouverne sans parlement, le parlement gouverna sans le roi. Le roi fut chassé de Londres, s'établit à York et déclara la guerre à son parlement. Ainsi commença la Grande Guerre civile en 1642, et lorsque Penn naquit en octobre 1644, 4 célèbres batailles avaient été livrées, Edge Hill, Newbury, Nantwich et Morstan Moor. Les canons puritains avaient abattu bien des châteaux anciens de la noblesse. La cause du roi était perdue, et les soldats puritains et parlementaires victorieux, avec leurs extraordinaires noms bibliques, Prescott Barbones et le sergent Hugh Agag in Pierce Before the Lord, parcouraient le pays, brisant les images dans les églises, arrachant les tuyaux des orgues, cassant les vitraux, et logeant leurs chevaux dans les cathédrales. Mais bien que la guerre civile fasse rage dans un pays, les affaires ordinaires de la vie continuent. Les enfants jouent à cache-cache, et les amoureuses embrassent leurs bien-aimés comme au temps de paix. Nous ne devons pas nous laisser tromper par les affirmations générales et la perspective de l'histoire, et nous sommes assurés qu'il restait encore un peu de vie tranquille en Angleterre quand nous lisons l'histoire de ce gentilhomme campagnard qui, le matin de la bataille d'Edge Hill, se promenait nonchalamment avec ses chiens entre les deux armées. Quel intérêt pouvait avoir la guerre pour celui dont la vie, en seigneur de ses terres, était autonome et complète? William Penn naquit à Londres, le 14 du 8e mois, aujourd'hui le 10e, en l'an 1644. De ses toutes premières années, on sait peu de choses. Héritier d'un domaine considérable et jeune homme aux capacités prometteuses, son père semble n'avoir épargné aucune dépense pour lui procurer la meilleure éducation que le pays put offrir. Il reçut les rudiments du savoir à l'école de Chigwell, près de Wanstead, dans l'Essex, alors résidence de campagne de son père. Bien qu'il quittât cet établissement à l'âge de 12 ans, il semble y avoir reçu pendant qu'il y était certaines impressions sérieuses concernant les choses de la religion. Le Seigneur, qui voulait faire de lui un instrument de bien pour de nombreuses âmes, visita son esprit par son Saint-Esprit, le plaçant sous une considération grave de son bien-être éternel. Et bien qu'il ne sût pas alors ce qui l'impressionnait ainsi solidement, cela eut néanmoins un bon effet sur son esprit. De 12 à 15 ans, il résida à Londres et eut l'avantage d'un précepteur particulier pour l'aider dans la poursuite de ses études. Rendant compte, quelques années plus tard, de ses exercices religieux et de sa conviction, il remarque « Oui, c'est Christ, la véritable et unique semence de Dieu, qui visita mon âme même dans mes jeunes années, étala mes péchés en ordre devant moi, me reprit, fit venir sur moi une tristesse selon Dieu, me faisant souvent pleurer dans des lieux solitaires et dire en moi-même, « Oh, si je connaissais le Seigneur comme je dois le connaître. Oh, si je le servais comme je dois le servir. » Oui, souvent un grand souci pesait sur mon esprit au sujet de mon état éternel, désirant avec tristesse que le Seigneur donne à mon âme du repos au grand jour de la détresse. Durant cette période, sa réflexion religieuse se renouvelait souvent, et bien que l'entrain de la jeunesse pût parfois la dissiper, il y avait néanmoins une œuvre commencée que l'ennemi des âmes ne pouvait pas entièrement ravager et qui, à mesure qu'il avançait vers l'âge adulte, commença à produire ces fruits bénis de l'esprit par lesquels sa vie ultérieure fut remarquablement marquée. Pour en savoir davantage sur la mère, le grand-père et le père de Penn, ainsi que sur la Royal Navy, la profession de son grand-père et de son père, une page séparée est fournie. William Penn entre au collège. Le milieu du XVIIe siècle était une période très agitée en Angleterre. Les cavaliers du roi Charles Yé combattaient les têtes rondes d'Olivier Cromwell, et le pays tout entier était divisé entre les hommes du roi et les hommes du Parlement. Du côté de Cromwell et du Parlement se trouvait l'amiral William Penn qui, en 1646, avait reçu le commandement d'une escadre de navires de guerre avec le titre de vice-amiral d'Irlande, et s'était révélé un navigateur et combattant en mer hors pair. Il avait épousé Margaret Jaspe, fille d'un marchand anglais vivant à Rotterdam, et lorsqu'il partait en mer, il laissait sa femme et ses enfants dans le joli petit village anglais de Wanstead, dans le comté d'Essex. L'épouse de l'amiral Penn vivait tranquillement dans sa maison de campagne, et quand William eut 5 ans, les cavaliers avaient perdu la bataille de Naseby, s'étaient rendus à Bridgewater et à Bristol, et le roi Charles y avait été décapité. Une nouvelle Angleterre, une Angleterre puritaine, avait pris la place de l'ancienne, mais le garçon était trop jeune pour comprendre la différence. Il savait que son père combattait désormais les Hollandais, mais il s'intéressait surtout aux jeux qu'il faisait avec ses camarades d'école à Wanstead et avec les garçons du village voisin de Chigwell. Or, l'amiral Penn avait combattu du côté des têtes rondes parce que la marine anglaise s'était rangée du côté du Parlement, tandis que l'armée anglaise s'était en grande partie rangée du côté du roi, et non par amour véritable pour Oliver Cromwell et les puritains. Au fond de lui, il était royaliste et avait fort peu de patience pour les nouvelles idées religieuses qui devenaient si populaires en Angleterre. L'amiral était alors trop préoccupé par ses propres difficultés pour accorder beaucoup d'attention à son fils. L'amiral Penn avait secrètement fait savoir au fils exilé de Charles Yé qu'il entrerait à son service contre Oliver Cromwell. Cromwell l'apprit. Et lorsque l'amiral revint en Angleterre, Cromwell le fit jeter à la tour de Londres pour l'empêcher de nuire. Madame Penn et ses enfants montèrent à Londres et logèrent dans une petite cour près de la tour, afin d'être au moins à proximité de l'amiral. Peu après, l'amiral, dépouillé de sa commission, fut libéré et quitta Londres pour une propriété de campagne en Irlande que Cromwell lui avait donnée en récompense de ses services antérieurs. Ce qui suit est un récit de la conviction de William Penn, rapporté par Penn à Thomas Harvey. Il dit que, tandis qu'il n'était encore qu'un enfant vivant à Cork avec son père, Thomas Law y vint. Lorsqu'on répandit la rumeur qu'un Quake était arrivé d'Angleterre, son père proposa à quelques autres d'êtres comme les nobles béréens de l'entendre avant de le juger. Il envoya donc chercher Thomas Law pour qu'il vînt chez lui, où il tint une réunion de famille. Bien que William fût très jeune, il observa l'effet que la prédication de Thomas Law avait sur les auditeurs. un serviteur noir de son père ne put se retenir de pleurer à voix haute, et regardant son père, il vit aussi les larmes couler sur ses joues. Le petit William pensa alors en lui-même, et si tous devenaient Quakers, il n'oublia jamais tout à fait cette occasion, le souvenir en revenant encore de temps à autre. Les Penn restèrent en Irlande jusqu'à ce que les royalistes prennent le dessus sur les têtes rondes et que Charles Yi soit placé sur le trône d'Angleterre. Alors l'amiral Penn se hâta d'aller saluer le nouveau roi, fut fait chevalier pour sa loyauté et commença à se prélasser dans le plein soleil de la faveur royale. Il était désormais un personnage important à la cour, un homme riche et un proche ami et conseiller du frère du roi, Jacques, duc d'York, et il était Lord Grand Amiral d'Angleterre. À un peu plus de 15 ans, William Penn entra à Oxford comme « gentleman commoné », où il resta 3 ans, se distinguant comme un étudiant assidu et brillant. Nous apprenons de lui-même qu'il fut préservé de la corruption au milieu des dissipations et de la méchanceté qui abondaient à l'université. Il prenait grand plaisir au sport viril et à la compagnie de ces jeunes hommes qui se distinguaient par leur talent ou leur valeur. Parmi ceux avec qui il était lié se trouvait Robert Spencer, futur comte bien connu de Sunderland, et le vénérable John Locke, un philosophe d'une renommée ultérieure. Après la Restauration, la cour se mit à remodeler l'université en écartant ceux qui avaient des opinions puritaines ou qui avaient été en faveur durant le Commonwealth et en installant d'autres, favorables à l'Église rétablie et aux principes moraux relâchés alors en vigueur. Le Dr. Owen, remarquable en tant qu'érudit et rigoriste en religion, fut évincé pour faire place à un partisan royaliste, et les étudiants se divisèrent en parties, applaudissant ou dénonçant les changements. Il y a lieu de croire, d'après des observations faites par William Penn lui-même, que tout au long de sa jeunesse il fut à plusieurs reprises visité par l'aurore du jour la lumière au-dedans de tous les hommes, Christ venu d'en haut, l'amenant à une réflexion sérieuse. À l'université, ses compagnons semblent avoir été ceux d'un caractère religieux comme lui, qui avait probablement été influencé par l'enseignement et les conseils du Dr. Owen. Il se trouva que, tandis que de nombreuses controverses agitaient les érudits au sujet des opinions et pratiques religieuses, Thomas Law, qui avait appartenu à l'université et avait maintenant rejoint la Société des Amis, vint à Oxford et y tint plusieurs réunions. William Penn et ses compagnons s'y rendirent, et une profonde impression fut faite sur leur esprit par la puissante prédication de ce serviteur dévoué du Christ. Ils refusèrent d'assister aux offices, désormais réguliers du collège, et tinrent des réunions privées de culte, d'exhortations religieuses et de prières, et pour cela ils furent condamnés à une amende. Lorsqu'un ordre vint de Charles Yi selon lequel le surplis astérisque devait être porté, selon la coutume des temps anciens, chose alors rare dans cette université, ils refusèrent de le porter et l'arrachèrent à ce qu'ils rencontraient. Dans quelle mesure William Penn fut impliqué, on ne le sait pas. Mais sa conduite donna grand scandale et il fut expulsé de l'université avec ses compagnons. Le récit de Thomas Harvey sur sa conversation avec Penn indique que Penn lui dit avoir été expulsé pour avoir écrit un livre probablement une défense des vérités scripturaires de la foi quake, et les prêtres et maîtres du collège en furent indignés. Astérisque surplis, vêtements blancs portés par les membres du clergé de certaines confessions par-dessus leurs autres habits, dans l'exercice de leur ministère. C'est en particulier l'habit du clergé de l'Église d'Angleterre. Lorsque William Penn entra à Oxford, la Société des Amis connaissait une croissance exponentielle. Il s'opposait presque autant aux puritains qu'aux royalistes, lesquels appartenaient à l'Église d'Angleterre. Ils étaient une secte religieuse et plus encore. Ils refusaient de payer la dîme ou les taxes destinées à l'entretien de l'Église établie, refusaient de prêter serment devant les tribunaux, refusaient de s'incliner devant d'autres hommes. Ils gardaient leur chapeau au tribunal et en présence de personnes importantes. Zi et Zhao prenaient la place de You, bien que ces pronoms n'eussent été employés jusque-là que pour s'adresser aux domestiques. Rien n'offensait autant un royaliste que d'entendre un Quaker lui dire Zi ou Zhao, astérisque il prêchait dans les tavernes et sur les grands chemins, et parcourait les rues en proférant des prophéties d'avertissement. On les appelait Quakers parce qu'ils étaient souvent saisis par la puissance du Seigneur, au point de faire trembler leur chair, ou comme les a nommés un juge hostile, des Quakers. Il semblait, aux gens d'église comme aux puritains, que ces Quakers rompaient avec toutes les formes de religion, ils ne croyaient ni au baptême ni au service de la communion, ils n'écoutaient ni les ecclésiastiques ni les prédicateurs salariés, et souvent ils demeuraient silencieux dans leurs réunions, ne parlant que lorsque l'un d'eux se sentait inspiré par l'Esprit de Dieu pour s'adresser aux autres. Le calme était leur mot, et l'intériorité leur veille et leur attente de Dieu. Ils s'élevaient contre tous les sports et jeux, les théâtres, la danse et les jeux de cartes, comme des pertes de temps et des distractions qui détournaient de la recherche de Dieu, ce qu'ils comprenaient comme l'unique fin nécessaire de la vie. Beaucoup de soldats étaient Quakers, mais les Quakers mûrs furent finalement conduits par l'esprit en eux à déposer les armes et à ne plus combattre. Ils se tenaient à l'écart de la politique et témoignaient contre les vanités de la mode, avec ses rubans superflus, ses dentelles, ses bijoux, etc. Leur chef, George Fox, était une légende très courageux et très franc, s'adressant souvent à des milliers d'auditeurs à la fois. Et il savait susciter la discussion partout où il allait, voyageant dans toute l'Angleterre, le pays de Galles et l'Écosse, auxquels s'ajoutèrent, dans ses dernières années, l'Amérique, l'Irlande, la Hollande et l'Allemagne. Fox fut maintes et maintes fois emprisonné, il fut lapidé, maltraité et tourné en dérision, mais son pouvoir était tel que de plus en plus de gens vinrent le suivre, l'admirer, le révérer et l'aimer tendrement. Plus tard, Penn développa une très solide relation de travail avec George Fox, certains ont dit que Penn était l'ami le plus proche de Fox. Astérisque ainsi, on s'adressait aux classes inférieures par « thee » et « thou », tandis que les « importantes personnes singulières » exigeaient qu'on s'adresse à elles par « you », alors même que la Bible s'adresse à Dieu par « thee » et que les grammaires de l'époque enseignaient l'emploi de « thee » et « thou » pour s'adresser à une seule personne. C'était faire exception de certaines personnes, ne pas traiter tous les hommes également, ce qui est identifié comme un péché dans la Bible. Les Quakers refusaient de faire exception de qui que ce soit, y compris en s'inclinant devant lui ou en ôtant leur chapeau pour témoigner d'un respect convenable, pour ces refus, ils furent sévèrement persécutés. Aujourd'hui, toutes les classes sont appelées « you », ce qui ne marque pas de préférence pour certaines classes d'hommes. Le Seigneur ne fait pas exception de personne. Il était inhabituel que les Quakers aient exercé un attrait si puissant sur un jeune homme comme William Penn, qui était un gentleman commoné dans le collège le plus aristocratique d'Angleterre, un garçon agréable, populaire, amateur de sport, entouré des files de nobles et de courtisans. La foi Quaker, tout en traversant toutes les classes, était principalement un phénomène de classe moyenne en Angleterre. En Irlande et en Amérique, il y avait davantage de pauvres, souvent aidés par les Quakers anglais plus aisés. Penn était de nature sérieuse et très intéressé par les questions religieuses, et il mettait toute son âme dans toute cause qui l'attirait. Quel que fût Penn, il n'était jamais tiède, mais ardent et fougueux et toujours prodigieusement sincère. Aucune mesure douce n'attendait William Penn à son retour au foyer après cette expulsion d'Oxford. De l'université, il se rendit dans la maison de son père à Londres, et l'amiral Sir William Penn découvrit que son fils n'était nullement le jeune homme mondain qu'il avait espéré, mais un jeune homme d'une toute autre trempe. Il ne se souciait pas de la vie d'un cavalier ou d'un galant de cour, mais voulait aller à d'étranges réunions religieuses. L'amiral le supplia et l'implora, le menaça et tempêta, usa d'arguments et même de coups le rossé, et finit, dans un accès de rage, par chasser son fils de chez lui. Mais Lady Penn plaida pour son fils, et l'amiral, à la longue, permit à William de revenir à la maison. Chapitre Y les premiers Quakers. Pour comprendre l'histoire de William Penn, il nous faut avoir une idée claire de la foi Quaker à l'époque de Charles Yee. Tout au long du Moyen Âge, l'Église chrétienne, qui était l'Église catholique romaine, avait constitué un réseau de croyances que les gens tenaient pour acquises, si bien que les hommes n'exerçaient jamais leur esprit en matière de religion, mais étaient, à toutes fins utiles, de simples enfants, croyant tout ce que les prêtres leur disaient de croire. Pendant des siècles, l'Angleterre, tout comme l'Europe occidentale entière, avait reçu son credo directement du pape et de son clergé, ne doutant pas davantage de la vérité de ce qu'on lui disait qu'un enfant ne doute de la table de multiplication. Mais à la longue, certains hommes d'une indépendance d'esprit hors du commun, des hommes tels que Martin Luther et Jean Calvin, s'impatientèrent des enseignements arbitraires du pape et osèrent se demander si les prêtres avaient toujours raison, quoi qu'ils disent. Ces hommes, et d'autres semblables, prirent part à ce qu'on a appelé la Réforme, une époque où les hommes commencèrent à penser un peu par eux-mêmes. Le renouveau de l'érudition classique de la Grèce et de Rome, et l'invention de l'imprimerie, favorisèrent grandement cette nouvelle liberté de pensée. Les premiers livres sortis des presses furent des exemplaires de la Bible, qui jusque-là avaient été hors de portée de tous, sauf des prêtres, et comme les hommes traduisirent bientôt les écritures du latin en anglais, en français, en allemand et en d'autres langues, le peuple devint peu à peu capable de lire par lui-même l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible n'était plus un livre scellé, dont le clergé donnait à l'homme et à la femme ordinaire autant ou aussi peu qu'il le jugeait bon. Elle était librement accessible à tous, et de nouveaux maîtres commencèrent à en expliquer le sens selon leurs propres idées. Il fallut cependant longtemps pour que les hommes se détachent de l'obéissance implicite qu'ils avaient accordée pendant des siècles à l'Église de Rome. Les réformateurs les plus audacieux ne se débarrassaient que d'un ou deux dogmes à la fois. Wycliffe, le premier grand chef de la réforme en Angleterre, ne nia qu'une partie de la vérité de la messe et conserva presque tout le reste de la croyance catholique. Huss, qui lui succéda, n'osa mettre en doute que la vérité de certains miracles, bien qu'il déclarât croire en la liberté religieuse. Martin Lude lui-même consacra l'essentiel de son éloquence à attaquer la vente des indulgences, qui avait été poussée à de grands excès. Plus tard, il devint assez hardi pour s'opposer à l'autorité du pape, mais il demeura attaché à la plus grande part du credo de l'Église primitive. En Angleterre, Henri Vie avait rompu avec le pape, principalement parce que celui-ci avait refusé de lui accorder le divorce d'avec Catherine d'Aragon, et non à cause d'une grande divergence de vue religieuse. Cette rupture donna toutefois aux réformateurs une position officielle en Angleterre et conduisit à l'établissement de l'Église d'Angleterre, qu'on appela une Église protestante pour la distinguer de l'Église catholique. La fille d'Henri, Marie, était catholique, et son règne vit une lutte acharnée en Angleterre entre catholiques et les nouveaux protestants réformés. Ce fut une époque où de nombreux protestants furent brûlés vifs, accusés d'être des suppôts du diable ou des sorcières. Elle fut connue sous le nom de Bloody Mary. La sœur de Marie, Elizabeth, favorisait les protestants, et avec son avènement, la nouvelle Église prit réellement son essor, et les enseignements de la Réforme commencèrent à porter leurs fruits. Très progressivement, donc, les hommes en vinrent à penser de plus en plus librement par eux-mêmes. L'Église d'Angleterre rejeta certaines des croyances de l'Église catholique romaine, mais en conserva un grand nombre, et une fois bien établie comme Église officielle d'Angleterre, elle devint également conservatrice et insista pour que les gens obéissent à ses enseignements, comme l'avait fait l'Église catholique. Mais l'idée du droit de chacun de penser par lui-même avait été mise en mouvement et ne pouvait plus être arrêtée. Des hommes et des femmes, puritains, qui voulaient la liberté d'adorer Dieu à leur manière, partirent en Amérique et y fondèrent des communautés sur ce principe, tandis que d'autres, en Angleterre, commencèrent à manifester leur indépendance vis-à-vis de l'Église établie et à s'unir sous les noms de presbytériens ou de luthériens, sous diverses appellations, et beaucoup étaient souvent qualifiés de puritains. La guerre civile entre Charlier et le Parlement fut aussi, pour une large part, une guerre entre les hommes de l'Église d'Angleterre et les puritains. Puis, lorsque les puritains eurent conquis une place à eux et une certaine dose de pouvoir, ils devinrent à leur tour conservateurs et voulurent imposer à tout le reste de l'Angleterre leurs propres croyances et observances religieuses. À cette époque, cependant, les hommes s'étaient tellement habitués à la liberté de penser en matière religieuse que chaque petit groupe avait son credo particulier. Tout homme d'esprit original pouvait fonder une nouvelle secte et gagner des convertis. Les puritains eux-mêmes n'étaient pas assez libéraux pour satisfaire des hommes qui, désormais, se glorifiaient de ne reconnaître aucune autorité quant à ce qu'ils devaient penser. La plupart de ces petites sectes jouèrent un rôle très limité dans l'histoire. Certaines, comme les indépendants, les anabaptistes et les piétistes, prospérèrent pendant peu de temps, puis se fondirent dans d'autres sectes. Les Quakers, cependant, exercèrent un attrait bien plus puissant que beaucoup d'autres et attirèrent dans leurs rangs un grand nombre de ceux qui étaient mécontents des superstitions des catholiques, de l'Église d'Angleterre et des puritains. La raison pour laquelle les Quakers absorbèrent nombre des autres sectes et grandirent si rapidement est sans doute la principale raison pour laquelle ils séduisirent si fortement l'esprit libéral du jeune William Penn, fut qu'ils exposaient comme objectif un plan précis, revenir au christianisme primitif dans sa forme la plus simple. Aux hommes et aux femmes qui pensaient que toute religion était devenue irrémédiablement corrompue par l'ignorance, la fraude et la cruauté du clergé qui avait si longtemps contrôlé l'Église, les dirigeants Quakers s'efforcèrent de montrer que le christianisme originel était aussi pur et simple que jamais. Ce qu'ils voulaient, c'était que les gens reviennent aux doctrines de l'Église chrétienne telles qu'elles étaient avant que l'évêque de Rome ne devienne pape et avant que les prêtres n'interprètent la Bible comme cela les arrangeait. Les enseignants Quakers déclaraient que les épiscopaliens, les presbytériens, les baptistes et les puritains congrégationalistes étaient tous encore des religions fabriquées par l'homme. Ils étaient encore plongés dans la superstition, la cérémonie et le rituel, des observances extérieures du vieil homme charnel. Dans les religions établies, ils ne voyaient que vanité, sans changement du cœur, le vieil homme régnait encore, et le vieil homme de ces sectes était encore plongé dans la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Les sectes plus anciennes s'adressaient encore principalement aux riches et aux influents. Cette nouvelle religion devait satisfaire tout le monde, y compris les gens ordinaires, les pauvres, les simples, ceux qui se souciaient peu de la richesse ou d'une haute position. Plutôt qu'un culte et une louange extérieure de Dieu, ils dirigeaient les gens vers le Maître intérieur en chacun d'eux, la lumière qui éclaire tous les hommes venant au monde, tenant que la lumière au-dedans de chaque homme était le Christ, et qu'en demeurant en silence pour écouter ses enseignements, il les convaincrait du péché dans leur cœur, puis l'en ôterait. Le résultat final de ces enseignements et de ces purifications devait être d'être gouverné par l'Esprit de Dieu, de devenir un chrétien au cœur circoncis, et de voir s'accomplir en soi les promesses contenues dans les Écritures. Ainsi, tout leur accent portait sur un culte intérieur, invisible, conduit et suscité par l'Esprit de Dieu, plutôt que sur un culte extérieur, visible, mené par des hommes. Ce processus par lequel on leur montrait leurs péchés, et où ils s'en repentaient pour recevoir une grâce transformatrice, était, disait-il, la croix du Christ. Dans l'œuvre la plus célèbre de Penn, No Cross, No Crown, disponible sur ce site, il montra comment les autres sectes étaient la fausse Église, la prostituée de Babylone et la bête, contrôlée par le dragon et suivie par toutes les nations. Pour citer Penn dans No Cross, No Crown, quelle que soit la forme, le peuple ou l'Église dont vous êtes, c'est la vérité de Dieu pour l'humanité. Ceux qui ont même la forme de la piété, mais qui par leur vie n'ont mortifié en ni la puissance de les purifier du péché, n'appartiennent pas à la véritable Église, mais à la fausse Église, laquelle, bien qu'elle se nomme l'épouse de l'agneau, ou Église du Christ, rêve 21. 20-17, est ce mystère ou Babylone mystérieuse, justement appelée par le Saint-Esprit la mère des prostituées. Comme elle était alors, ainsi la Babylone mystique est aujourd'hui la grande ennemie du peuple de Dieu. Il est vrai que ceux qui sont nés de la chair haïssent et persécutent ceux qui sont nés de l'Esprit, qui sont la circoncision du cœur. Il semble qu'ils, véritablement nés de l'Esprit de Dieu, ne puissent reconnaître ni adorer Dieu selon les inventions, méthodes et prescriptions de la prostituée, ni recevoir pour doctrine ses vaines traditions, pas plus qu'ils ne peuvent se conformer à ces modes et coutumes corrompues dans leur manière de vivre. Ainsi, la prostituée n'est pas seulement une fausse apostate, elle est devenue une persécutrice des vrais chrétiens, ivre du sang des saints. Il ne suffit pas qu'elle-même s'écarte de l'ancienne pureté, elle force aussi les autres à l'impureté. Elle ne donne aucun repos à ceux qui ne veulent pas participer à sa dégénérescence ni recevoir sa marque. Y en a-t-il de plus sage qu'elle, que l'Église mère? Non, non, et nul ne peut faire la guerre à la bête sur laquelle elle est assise, ces puissances mondaines qui la protègent et jurent de la maintenir contre les clameurs de ses dissides. L'apostasie et la superstition sont toujours orgueilleuses et impatientes de la dissidence, tous doivent se conformer ou périr. C'est pourquoi les témoins immolés et le sang des âmes sous l'autel, rêve 6-9, se trouvent dans les murs de cette Babylone mystique, cette grande cité de faux chrétiens, et sont imputés à elle par le Saint-Esprit dans l'Apocalypse. Et il n'est pas étrange qu'elle mette à mort les serviteurs qui ont d'abord crucifié le Seigneur, mais c'est étrange et barbare aussi qu'elle tue son mari et assassine son sauveur, titres qu'elle semble tant affectionner et qui lui ont été si profitables, et par lesquels elle voudrait se recommander, quoique sans aucune justice. Mais ses enfants sont si entièrement réduits sous l'empire des ténèbres, du fait de leur désobéissance continue à la manifestation de la lumière divine dans leurs âmes, qu'ils oublient ce que l'homme fut jadis, ou ce qu'il devrait être maintenant, et ne reconnaissent pas le christianisme vrai et pur lorsqu'ils le rencontrent, tout en se glorifiant de le professer. Leurs mesures à propos du salut sont si charnelles et fausses qu'ils appellent le bien mal et le mal bien, qu'ils font d'un diable un chrétien et d'un saint un diable. De sorte que, si la latitude injuste de leur vie est déplorable, car pour eux-mêmes, elle est de destruction, cette opinion commune selon laquelle ils peuvent être enfants de Dieu tout en demeurant dans un état de désobéissance à ses saints commandements, et disciples de Jésus tout en se détournant de sa croix, et membres de sa véritable Église, qui est sans tache ni ride, bien que leur vie soit pleine de taches et de rides, et de toutes les autres tromperies qu'ils se font à eux-mêmes, la plus désastreuse pour leur condition éternelle. Car ils sont en paix dans le péché et en sécurité dans leur transgression. Leur vaine espérance fait taire leur conviction et recouvre tous les mouvements délicats vers la repentance, si bien que leur erreur quant à leur devoir envers Dieu est aussi funeste que leur rébellion contre lui, ô chrétienté. Mon âme prie très ardemment afin qu'après toute votre haute profession de Christ et de sa religion douce et sainte, votre vie inappropriée et non chrétienne ne vous rejette pas lors de ce grand tribunal du jugement du monde et ne vous fasse pas perdre, à la fin, un si grand salut. Écoutez-moi une fois, je vous en supplie, le Christ peut-il être votre Seigneur et vous ne pas lui obéir? Matt 7-21-23, John 14-23, où pouvez-vous être son serviteur et ne jamais le servir? Ne vous y trompez pas, ce que vous semez, vous le récolterez, Galates 6-7. Il n'est pas votre sauveur tant que vous rejetez, dans votre cœur, sa grâce par laquelle il devrait vous sauver en vous purifiant. Allons, de quoi vous a-t-il sauvé? Vous a-t-il sauvé de vos convoitises pécheresses, de vos affections mondaines et de vos vaines conversations? Sinon, alors il n'est pas votre sauveur. Car bien qu'il soit offert comme sauveur à tous, Il n'est en réalité sauveur que pour ceux qui sont sauvés par lui, et nul n'est sauvé par lui s'il vit dans ces mots par lesquels il est perdu loin de Dieu, et dont il est venu les sauver. Vous voyez donc que les différences des Quakers ne tenaient pas à quelque interprétation mineure du sens des Écritures. Il disait, en substance, qu'à moins que votre cœur ne soit purifié jusqu'à la sainteté par la croix du Christ, vous n'aviez pas de salut. Ils étaient aussi révolutionnaires pour leur époque que Jésus l'avait été pour la sienne. Ils furent persécutés comme Jésus l'avait été, exactement comme Jésus avait dit que ses vrais disciples le seraient. Plus de 800 Quakers moururent en prison. Beaucoup d'autres furent tués pendant leurs offices par des foules furieuses de congrégationalistes puritains, de baptistes, d'épiscopaliens et de presbytériens, qui les haïssaient parce qu'ils leur disaient qu'ils avaient un faux salut et faisaient partie d'une fausse église. Le fait que tant de Quakers témoignaient, dans leur vie, de la grâce de Dieu qui transforme et enseigne, tout en faisant preuve de modération dans leurs propos et d'intégrité dans leur conduite, constituait un puissant attrait pour inciter d'autres personnes à se joindre à leur société, en particulier lorsqu'elles entendaient la prédication des nombreux ministres sans formation officielle, plusieurs âgés de moins de 20 ans, mais capables d'expliquer toutes les promesses contenues dans les Écritures et la manière de se les assurer. Ces ministres étaient généralement très mûrs en Christ, parlant par l'Esprit de Dieu, leurs paroles dépassaient donc de beaucoup celles des prédicateurs formés par l'homme, qui ne faisaient que répéter des phrases de la Bible. Ainsi, les paroles des ministres Quakers atteignaient la part sainte de leurs auditeurs. Ceux qui les entendaient étaient profondément impressionnés, leur propre lumière intérieure rendant témoignage de la vérité des paroles et des principes entendus. Selon leur amour ou leur haine de la vérité, ils pouvaient alors accueillir ces paroles avec conviction ou les rejeter par dénégation, mais c'était véritablement leur jour de visitation. Les Quakers étaient, pour la plus grande part, une secte remarquablement sobre, censée de classe moyenne, respectueuse des lois. Les catholiques, les puritains, les presbytériens et d'autres n'avaient jamais hésité à tenir leurs réunions en secret lorsque les lois paraissaient trop sévères à leur égard. Les Quakers, cependant, ne tinrent jamais de réunions secrètes, ils accomplissaient leurs devoirs au grand jour, quelle que fût l'opposition des magistrats. Ils plaidaient leur cause librement et ouvertement en toute occasion, et ils écrivirent un grand nombre de brochures exposant leurs croyances et racontant aussi les persécutions qu'ils avaient subies. 500 auteurs Quakers publièrent en peu de temps plus de 2000 brochures et livres. Ces écrits furent largement diffusés et attirèrent l'attention sur le caractère raisonnable de leur cause, tout en gagnant de la sympathie pour leur lutte avec la loi. Ils montrèrent aussi bientôt la vertu anglaise d'obstination dans leur cause, car quel que fût le nombre de fois où ils étaient emprisonnés ou arrêtés, ils poursuivaient fermement leur voie. Au début, on se moquait de la coutume qu'avaient les Quakers de tenir leurs réunions religieuses en prison comme ils les auraient tenues dans leur salle de réunion. Mais bientôt, les rires firent place au respect, puis finalement, à une admiration sincère. William Penn, si jeune qu'il fût, vit que les Quakers se tenaient au pôle opposé de ce qu'il en était venu à considérer comme un sacerdoce superstitieux. Il avait un intérêt naturel pour la religion, une sincérité d'esprit naturelle qui le conduisit à examiner les affirmations des Quakers et une force de jugement suffisante pour pouvoir trouver la vérité qui était cachée à beaucoup d'autres. Chapitre Y. William Penn voyage lorsque son fils William revint d'Oxford, l'amiral Penn était une figure en vue à Londres. Il occupait de nombreuses fonctions, il était commissaire de la marine, membre du Parlement, gouverneur de Quinsale, amiral d'Irlande, membre du Conseil du Munster et un favori du roi Charles et du duc d'York. Il espérait vivement être bientôt fait pair. Son épouse Lady Penn et sa fille Margaret ou Peg, comme on l'appelait d'ordinaire, aimaient la société et la mode. Il était donc assez naturel que l'amiral Penn ne comprît ni n'apprécia pleinement les nouvelles opinions religieuses de son fils William. Il trouvait le jeune homme excessivement volontaire, mais ne pouvait croire que son intérêt pour le nouveau mouvement fût autre chose qu'un caprice passager. Aussi, pour intéresser William à d'autres choses, le présenta-t-il à ses propres amis et lui montra-t-il quelque chose du côté agréable de la vie à la cour du roi Charles. Il emmena William souper au Bay Inn et voir des pièces au théâtre de Drury Lane. On jouait alors une satire contre les puritains, intitulée « The Jovial Crew », dans un théâtre connu sous le nom de The Cockpit, et l'amiral y conduisit William afin de lui montrer combien les puritains et toutes les sectes religieuses plus récentes étaient en réalité ridicules. Mais aussi franchement que l'amiral rit et l'encouragea à rire, il ne parvint pas à amener William à se jeter dans les plaisirs de la vie londonienne aussi volontiers qu'il pensait qu'un jeune homme normal aurait dû le faire. Le père aimait réellement beaucoup son fils, et passa beaucoup de temps à chercher ce qui serait le mieux pour son garçon. Finalement, il lui vint à l'esprit qu'une visite à la célèbre ville de Paris divertirait William et lui ferait oublier certaines de ses étranges idées d'Oxford. Quelques-uns de ses camarades d'université allaient en France pour étudier, et l'amiral arrangea que William partirait à l'étranger avec eux. Certains étaient de haut rang, et ils auraient facilement accès à la meilleure société française. Les jeunes gens furent accueillis chaleureusement à Paris. Penn fut présenté au roi Louis Xiv, et il fut charmé par l'éclat de la cour de France. Il fit la connaissance de personnes divertissantes et il eut au moins une aventure. On raconte astérisque que, revenant tard une nuit d'un bal, il fut arrêté par un vaurien qui, furieux, lui cria de tirer l'épée et de se défendre. Le misérable brandit sa propre rapière sous les yeux de Penn et déclara que Penn l'avait insulté, qu'il avait salué poliment le jeune Anglais en s'inclinant et en ôtant son chapeau, mais que celui-ci n'avait pas fait attention à lui. Penn répondit avec courtoisie qu'il n'avait pas vu l'inconnu et qu'il ne pouvait donc l'avoir insulté en manquant de s'incliner. L'étranger, cependant, ne fit que s'exciter davantage et insista pour que Penn se battît, sinon il le passerait au travers. Penn vit que discuter était inutile et, étant à ce moment-là lui-même en colère, tira son épée et se mit en garde. La rue était sombre, mais une petite foule s'était rassemblée, attirée par les cris, et plusieurs hommes annoncèrent qu'ils veilleraient au fair-play. Les épées scintillèrent en quelques passes, puis Penn se montra le plus habile bretteur. D'un mouvement de sa rapière, il envoya l'épée de son adversaire voler en l'air. La foule s'attendait à ce qu'il attaquât de nouveau, mais Penn, au contraire, se baissa et, ramassant l'épée de l'autre homme, la lui rendit avec une révérence, disant qu'il espérait que le Français était satisfait. La nouvelle de cette petite rencontre se répandit rapidement parmi les amis du jeune Anglais, et sur cette seule affaire, il devint un véritable héros. Astérisque, ce n'est pas seulement une histoire. Voici le récit de Penn, tiré de son écrit « No Cross, No Crown ». Je me trouvais moi-même un jour en France, c'était avant que je devienne Quake, et vers 11 h du soir, comme je rentrais à mon logis, je fus attaqué par une personne qui m'avait guetté, l'épée nue à la main, et qui exigea réparation parce que je n'avais pas fait attention à lui au moment où il m'avait salué poliment en ôtant son chapeau, alors qu'en vérité je ne l'avais pas vu à ce moment-là. Supposons qu'il m'eût tué, car il porta plusieurs pas sur moi, ou que me défendant je l'eusse tué, lorsque je le désarmai, ainsi que le vit le serviteur du comte de Crawford, qui se trouvait près de là, je demande à tout homme de bon sens ou de conscience si toute l'affaire valait la vie d'un homme, eu égard à la dignité de la nature et à l'importance de la vie humaine, tant par rapport à Dieu son créateur qu'à lui-même, et au bénéfice de la société civile. Pendant ce temps, l'amiral, à Londres, était très satisfait des rapports qu'il recevait sur la réussite de William dans le monde parisien. Il voulait toutefois lui donner une éducation plus approfondie que celle qu'offrait Oxford, et fit donc des arrangements pour qu'il se rende chez le professeur Mose Amirault, à Saumur, afin de vivre chez lui et d'étudier la religion sous sa direction. Mose Amirault était un ministre calviniste érudit et professeur de théologie, alors tenu en haute estime. Sous la conduite de ce maître, il reprit ses études, lut les pères anciens aussi bien que les ouvrages modernes de théologie, et acquit une connaissance précise de la langue française. Après avoir quitté Saumur, il se dirigea vers l'Italie, mais lorsqu'il arriva à Turin, une lettre de son père lui parvint, lui demandant de rentrer. L'amiral, ayant reçu l'ordre de prendre le commandement de la flotte, sous le duc d'York, contre les Hollandais, souhaitait laisser sa famille sous la garde de son fils. William rentra donc en 1664, après une absence d'environ 2 ans. Lorsqu'il revint à Londres, il était très français et très galant. En vérité, il était tellement homme du monde que l'amiral Penn en fut réellement ravi. Il espéra alors que William, finalement, marcherait sur ses traces et deviendrait une figure à la cour du roi. Peu après, cependant, ses exercices et conflits spirituels reprirent. Le Seigneur qu'il aimait et le destinait à être utile dans son Église le poursuivit par les convictions, secrètes mais puissantes, de son esprit. Ses perspectives mondaines flattaient hautement l'ambition naturelle d'un esprit jeune et ardent. Il avait une stature virile, florissante de santé, un caractère vif et actif, une repartie prompte, et des talents affermis par de grandes acquisitions littéraires et scientifiques, ainsi que de nombreux amis riches et puissants. Tout cela, ajouté au crédit de son père à la cour et à son intimité avec le duc d'York, héritier présomptif de la couronne, ainsi qu'aux sollicitations de nombreux amis, l'inclinait fortement à embrasser la gloire et les plaisirs de ce monde, qui semblait le courtiser pour obtenir son assentiment. Mais la gloire et la joie de l'héritage céleste s'étaient profondément emparées de son esprit, et par moments, ses supplications ferventes s'élevaient vers le Seigneur pour qu'il le préservât et le dirigeât. Et celui qui a égard à la prière du chercheur sincère daigna, dans sa bonté, entendre son cri et le favoriser d'une visitation renouvelée de sa propre puissance et de son propre Esprit Saint, ce qui lui permit de rejeter toutes les séductions étincelantes de la grandeur et des honneurs du monde, et de décider avec une résolution sainte de suivre le Christ Jésus dans la régénération, quels que puissent être les sacrifices, les souffrances ou les reproches que cela lui coûterait. Dans cette perspective, ce William inscrivit son fils à Lincoln's Inn pour étudier le droit. S'il devait occuper d'importantes charges dans le gouvernement de son pays, il lui fallait avoir des connaissances juridiques, et en outre, cette formation le mettrait en contact avec de jeunes hommes prometteurs de bonne famille. William commença donc ses études et l'amiral, satisfait, embarqua avec le duc d'York pour combattre les Hollandais. La lettre de William, lorsqu'il débarqua à Harwich, montre le respect affectueux qu'il portait à son père. « Père honoré, nous n'avons pu arriver ici plus tôt qu'aujourd'hui vers midi, à cause des vents contraires persistants, et me semble-t-il d'un mauvais temps. Je prie Dieu qu'après tout le mauvais temps et les dangers auxquels vous êtes exposés, et auxquels vous le serez, vous rentriez en toute sécurité. Et je bénis Dieu, mon cœur ne fléchit d'aucune manière, mais je crois fermement que si Dieu vous a appelé au combat, il couvrira votre tête en ce jour enfumé. Et comme je n'ai jamais su ce qu'était un père jusqu'à ce que j'aie assez de sagesse pour l'estimer à sa valeur, je puis dire sans crainte qu'à présent, plus que jamais, vos affaires me sont des plus chères. » L'amiral fit de son fils le porteur d'une dépêche au roi Charles. Ce fut sans doute sa première visite officielle à Whitehall, mais le fait qu'il devait être bien connu du roi ressort de la lettre à son père où il rapporte la remise de la dépêche. Sa lettre se termine par ces mots « Je prie Dieu d'être avec vous et d'être votre armure au jour de la controverse. Que cette puissance soit votre salut pour l'amour de son nom. Et ainsi le souhait et le prie celui qui est, avec la plus vraie vénération, père honoré, votre fils et serviteur obéissant, William Penn. » William appliqua avec ardeur son esprit aigu et vaste à l'étude du droit pendant l'année suivante. Mais survint ensuite un changement. En 1665, la peste éclata. Comme tous ceux qui pouvaient se déplacer sauf George Whitehead, qui resta pour servir les malades, il quitta Londres. Mais en présence de ces appels si soudains de la vie d'ici-bas à la vie d'au-delà, des pensées très solennelles et un sentiment religieux de sa responsabilité envers Dieu quant au bon usage des talents qui lui avaient été donnés s'emparèrent de son esprit. Son père remarqua la grave réflexion qui s'ensuivit et son désir manifeste de se retirer de la vie à la mode. Se souvenant du passé, il s'alarma et résolut bientôt d'envoyer son fils rendre visite à son ami, le duc d'Ormond, alors lord lieutenant en Irlande. Après avoir fait connaissance avec la famille Ormond, William devait se rendre dans le comté de Cork et entreprendre la gestion du domaine de Shangali appartenant à l'amiral. On disait que la cour vice-royale de Dublin, à cette époque, était la plus pure d'Europe et remarquable par son raffinement et sa culture intellectuelle. On nous dit qu'elle était, dans une large mesure, exempte des excès vulgaires qui prévalaient dans la célèbre société dissipée de la cour du second Charles. Elle convenait donc aux goûts et aux tendances du jeune Penn à un degré auquel celle-ci n'aurait jamais pu prétendre. William Penn, en armure à 22 ans, il demeura donc à Dublin pendant un temps considérable et se joignit même au comte d'Arran, second fils du duc, dans une expédition militaire destinée à réprimer une révolte dans le comté d'Antrim. Les insurgés s'étant retranchés dans le château de Carrickfergus, Arran, accompagné de son jeune ami comme volontaire, entreprit de les en déloger, et finalement, ils rendirent la paix au district. Son biographe dit que le jeune Penn se comporta tout du long avec tant de sang-froid et de courage qu'il arracha les applaudissements généraux d'officiers expérimentés. Le duc d'Ormond et Lord Arran insistèrent avec conviction pour affirmer que l'aptitude qu'il avait montrée indiquait clairement l'armée comme profession à laquelle ses talents le destinaient éminemment. Mais si satisfait que fût l'amiral des éloges du duc sur l'aptitude et la valeur militaire de son fils, il ne souhaitait pas qu'il devînt soldat le rival d'un homme de la marine, et par conséquent, le dernier aussi bien que le premier exploit militaire de William Penn fut lié au château de Carrickfergus. Le premier portrait pour lequel il posa fut peint à Dublin après son retour et il y était représenté dans l'armure qu'il avait portée à cette occasion. Mais une crise importante se profilait maintenant, qui changea tout le cours de sa vie. Le seigneur de tous lui assigna longtemps une autre et très différente discipline, préparant son cœur et ses mains à combattre pour la cause de Dieu et de sa justice, non avec des armes charnelles, mais avec les armes spirituelles de la vérité divine, de la foi et de l'amour. Penn, à son arrivée au château de Shangali, trouva qu'un abondant travail était nécessaire. Il fallait accomplir beaucoup de tâches pour remettre en ordre les affaires liées au domaine, mais finalement, tout fut réglé avec une telle rapidité et une telle capacité pratique que son père s'en réjouit. Le manuscrit de Harvey relatant la conversation de Penn avec lui dit que, lors de la seconde venue de Penn à Cork, étant le seul de la famille présent et ayant besoin de quelques articles d'habillement, il alla les acheter dans la boutique d'une femme amie dans la ville. Il s'attendait à ce qu'elle le reconnût, mais elle ne le reconnut pas. Il était trop changé depuis les jours de son enfance, lorsque l'ami l'avait vu, pour être reconnu par elle à présent. Cependant, il lui dit qui il était et lui parla de Thomas Lo et de la réunion tenue dans la maison de son père 10 ou 11 ans auparavant. Le manuscrit dit, elle s'étonna qu'il s'en souvînt, mais il lui dit qu'il ne l'oublierait jamais, et que s'il savait seulement où se trouvait cette personne, fût-ce à 100 000, il irait l'entendre de nouveau. Elle dit qu'il n'avait pas besoin d'aller si loin, car l'ami était venu là récemment et serait à la réunion le lendemain. Il alla donc à la réunion, et lorsque Thomas Lo se leva pour prêcher, il en fut extrêmement touché et pleura beaucoup. Le prédicateur commença par ce texte, « Il est une foi qui vainque le monde, et il est une foi qui est vaincue par le monde. » Il développa ce sujet, et cela d'une manière si impressionnante que William en fut profondément affecté. Il sentit vivement qu'il avait laissé le monde vaincre les attirances de l'amour de son Père Céleste, et pleura beaucoup. Repassant sa vie quelques années plus tard, lors d'un entretien avec des personnes pieuses, il dit « Je leur fis savoir comment et quand le Seigneur m'apparut pour la première fois, ce qui fut vers la 12e année de mon âge, et comment par moments entre cette époque et ma 15e année, il continua de me visiter ainsi que les impressions divines qu'il me donna de lui-même, de ma persécution à Oxford, et de la manière dont le Seigneur me soutint au milieu des ténèbres infernales et des débauches de ce lieu, de mon bannissement du collège, des durs traitements que je subis lorsque je revins vers mon père, fouet, coups et mis à la porte. Comment, après tout cela, la gloire du monde m'atteignit, et j'étais même prêt à m'y livrer, ne voyant pas encore sur la terre de telles choses que l'esprit et l'Église primitifs, et étant prêt à défaillir quant à mon espérance du rétablissement de toutes choses. C'est alors que le Seigneur me visita par un certain son et témoignage de sa parole éternelle, au travers de l'un de ceux que le monde appelle Quakers, à savoir Thomas Lo. Je rapportai les amères moqueries et les dédains qui s'abattirent sur moi, le déplaisir de mes parents, la cruauté et les invectives des prêtres, l'étrangeté de tous mes compagnons, et quels signes et quelles merveilles ils firent de moi, mais plus que tout cette grande croix de résister à mes propres vaines affections et pensées, et de veiller contre elles. William Hepworth Dixon dépeint, avec une grande puissance évocatrice, les événements qui suivirent. Le jeune homme ne résidait pas depuis plus de quelques mois au château de Shangri, lorsqu'un de ces incidents survint qui détruisent en un jour les tentatives les plus élaborées d'étouffer les instincts de la nature. Tandis que l'amiral, en Angleterre, se rengorgeait des triomphes de sa prudence mondaine, son fils, à l'occasion d'une de ses fréquentes visites à Cork, apprit par hasard que Thomas Lo, son ancienne connaissance d'Oxford, se trouvait dans la ville et comptait prêcher ce soir-là. Il se remémora son enthousiasme juvénile à l'université et se demanda comment l'éloquence du prédicateur résisterait aux critiques de son jugement plus mûr. La curiosité le poussa à rester et à écouter. L'orateur Ferve prit pour texte ce passage « Il est une foi qui triomphe du monde, et il est une foi que le monde triomphe ». Animé d'un fort sentiment religieux, mais en même temps docile et affectueux, il avait auparavant oscillé entre deux devoirs, le devoir envers Dieu et le devoir envers son Père. C'était un cas où les esprits les plus forts pouvaient chanceler quelque temps. D'un côté, son affection filiale, l'exemple de ses brillants amis, l'ambition mondaine rarement tout à fait étrangère à l'âme de l'homme, tout plaidait puissamment en faveur des vues de son père. De l'autre, il n'y avait que les faibles murmures de son propre cœur, mais cette voix intérieure ne se laissait pas réduire au silence. Aussi souvent qu'il s'était évadé de la pensée dans les affaires ou la société festive, le moindre moment de repos lui ramenait les anciennes émotions. La crise était venue enfin, sous l'influence de Thomas Lo, elles retrouvèrent un empire durable. À partir de cette nuit-là, il fut quake dans son cœur. Le manuscrit de Harvey rapporte qu'après la réunion, quelques amis firent attention à lui, et il se rendit chez un ami avec Thomas Lo. Au cours de la conversation, Thomas Lo dit qu'il avait besoin d'un cheval, le sien n'étant pas en état de voyager, sur quoi William Penn lui proposa son cheval de bât, qu'il avait ramené de France. Thomas Lo ne voulut pas l'accepter, et William Penn pensa que c'était parce qu'il n'était pas assez ami pour que son cheval fût accepté. Étant par nature si ardent, il décida que sa foi devait triompher des tentations qui l'entouraient. Il combattrait aux côtés de ceux qui croyaient aux enseignements du Christ intérieur, la lumière, le maître et le sanctificateur de ceux qui écouteraient ses enseignements et ses commandements. Thomas Lo avait convaincu Penn de la vérité, de la voie intérieure du salut dont on pouvait témoigner, et non simplement la supposer à partir de lecture des enseignements des hommes. Il se résolut à devenir quake, malgré tout ce que sa famille ou ses amis pourraient dire. La nouvelle foi avait touché les ressorts les plus profonds de sa nature sincère et religieuse. Ainsi William Penn, déjà passablement courtisan, devint Quaker et continua d'être les deux à la fois. Son père avait été à la fois un tête ronde et un royaliste, quoique dans son cas, ce fut toujours par intérêt personnel. Le fils allait maintenant réunir deux types d'hommes forts différents, mais chez lui cela provenait entièrement des deux côtés de sa nature. C'était pourtant une combinaison très étrange, celle d'un Quaker et d'un courtisan, et qui devait sûrement le placer dans bien des situations curieuses et controversées. À maintes reprises, il assista à la réunion des amis à Coq, et toujours avec la conviction profonde que, dans leurs assemblées, l'adoration en esprit et en vérité était agréablement offerte au Père des miséricordes et Dieu de toute consolation. La conduite véridique, bienveillante, sans ostentation, de ses disciples persécutés du Christ avec lesquels il adorait désormais, gagna sa confiance, et il résolut, quoi qu'il arrivât, de partager leur destinée. Dans leur réunion, il avait éprouvé une communion spirituelle si intime qu'il ne l'avait jamais connue ailleurs. Il croyait que ses yeux spirituels étaient désormais ouverts pour voir avec quelque clarté ce qui venait de Dieu et ce qui n'en venait pas. Mais il ne se passa pas longtemps avant qu'un événement ne survînt, qui dut lui donner un avant-goût des épreuves qui l'attendaient si, bravant les admonestations paternelles, il s'identifiait aux amis persécutés. Car le 3 du 9e mois 1667, leur réunion à Coq à laquelle il assistait fut dispersée par une troupe de constables et de soldats, et tous les hommes, au nombre de 18, furent faits prisonniers et conduits devant le maire. Le manuscrit de Harvey sur la conversation de Penn dit, il continua à aller aux réunions, et un jour, un soldat entra dans la réunion des amis et causa un grand tumulte, sur quoi William Penn s'approcha de lui, le prit au collet et aurait voulu le jeter dans l'escalier, n'eût été l'intervention d'un ou deux amis qui prièrent William de le laisser, lui disant que les amis étaient un peuple pacifique et ne voulaient pas qu'on y fît du désordre. Il fut alors très préoccupé d'avoir, par sa rudesse, causé de l'inquiétude parmi eux. Le soldat que William Penn avait expulsé alla trouver les magistrats et amena des officiers et des hommes qui dispersèrent la réunion et en firent plusieurs prisonniers, lui compris. Le fait que cela fût une nouvelle pour Penn constitue une preuve solide que les premiers Quakers ne prêchaient pas contre la guerre ou la paix extérieure, laissant cela à la conscience individuelle. Remarquant parmi les prisonniers le jeune héritier de Shangari, le magistrat dit qu'il n'était pas nécessaire qu'il allât en prison s'il voulait fournir caution de sa bonne conduite. Penn refusa de le faire et, mettant hardiment en cause la légalité de toute la procédure, fut emprisonné avec les autres. De la prison, il écrivit à son ami Lord Ossery, fils aîné du duc d'Ormond, qui exerçait alors la présidence du Munster. Voici un extrait de la lettre, William Penn au comte d'Ossery, Lord président du Munster. L'occasion peut paraître aussi étrange que ma cause est juste, mais votre seigneurie n'en étendra pas moins sa charité dans l'un des cas que sa justice dans l'autre. La religion, qui est tout à la fois mon crime et mon innocence, me fait prisonnier pour avoir été dans l'assemblée du peuple appelée Quakers, lorsqu'il est venu des constables, soutenu par des soldats, exigeant rudement et arbitrairement que chacun comparût devant le maire, et parmi les autres, ils m'y traînèrent. Il m'accusa d'avoir été présent à une assemblée tumultueuse et séditieuse, et à moins que je ne donnasse engagement de bonne conduite, il me ferait incarcérer. Je lui demandai son autorité. Il me répondit, une proclamation de l'an 1660 et de nouvelles instructions pour ranimer cet ordre mort et suranné. Je laisse votre seigneurie juger si cette proclamation concerne ce qui n'était destiné qu'à réprimer les meurtriers de la 5e monarchie. Et puisque le Lord Lieutenant du Roi et vous-même êtes pleinement persuadé que l'intention de ce qu'on appelle Quakers par leur réunion était réellement le service de Dieu et que vous avez virtuellement abrogé cette autre loi par une longue continuation de liberté, j'espère que votre seigneurie ne commencera pas maintenant une sévérité injustifiée en permettant à quiconque de se livrer à tant de malice envers ses plus proches voisins, mais qu'il y aura une prompte mise en liberté de tous, afin qu'ils puissent vaquer à leurs honnêtes occupations. Quoique s'écarter d'un système national imposé par l'autorité rende les hommes hérétiques aux yeux de certains, j'ose pourtant croire que votre seigneurie est mieux instruite en raison et en théologie que pour souscrire à une maxime si vulgaire et si fausse. Il n'y a pas longtemps, que vous étiez vous-même solliciteur de la liberté que je réclame aujourd'hui, lorsque vous conclûtes qu'il n'y avait pas de moyen plus efficace d'améliorer ce pays que d'accorder la liberté en matière de conscience. Ma humble supplication est donc que pareille pratique, malveillante et injuste envers d'innocents Anglais, ne reçoive aucun appui de votre seigneurie, car cela ne ressemblerait pas à cette clémence et à cet esprit anglais qui vous ont déjà rendu honorable. Lord Ossery intervint promptement pour faire libérer son jeune ami. Mais le comte fut désolé de le trouver, à sa sortie, nullement disposé à rompre ses liens avec les Quakers persécutés. Ossory ne tarda donc pas à écrire pour informer l'amiral de l'emprisonnement de son fils, de sa libération et de sa fréquentation persistante des amis. Toute la famille fut consternée par la nouvelle, et le jeune homme fut aussitôt rappelé par son père déçu. Il obéit sans délai à la sommation, se présentant dès que possible devant ses parents à Londres. Quelques années plus tard, rendant compte de ses exercices religieux et de sa conviction, il remarque « Oui, c'est le Christ, la vraie et unique semence de Dieu, qui a visité mon âme, même dans mes jeunes années, a rangé mes péchés devant moi, m'a repris et m'a inspiré une douleur selon Dieu, me faisant souvent pleurer dans des lieux solitaires et dire en mon âme que je connaissais le Seigneur comme je devrais le connaître, oh, que je le servais comme je devrais le servir, oui, souvent un grand souci pesait sur mon esprit quant à mon état éternel, désirant tristement que le Seigneur donne le repos à mon âme au grand jour de détresse. Alors toute la gloire du monde n'était qu'une bulle, oui, rien ne m'était cher pourvu que je gagne Christ, car l'amour, le plaisir et l'amitié de ce monde étaient un fardeau pour mon âme. Dans cet état de recherche, je fus dirigé vers le témoignage de Jésus dans ma propre conscience, comme la vraie lumière brillante, qui m'a été donnée pour discerner les pensées et les intentions de mon propre cœur. Et à peine m'y fus-je tourné que je trouvai que c'était ce qui, depuis mon enfance, m'avait visité, bien que je ne le connusse pas distinctement, et lorsque je le reçus dans l'amour qu'il inspire, il me montra tout ce que j'avais jamais fait et reprit toutes les œuvres infructueuses des ténèbres, me jugeant comme un homme selon la chair, et appliquant en moi le jugement à la règle et la justice au niveau. Par l'éclat de sa venue dans mon âme, le Seigneur Jésus découvrit l'homme de péché qui s'y tenait sur son trône, et par le souffle de sa bouche, qui est l'épée à deux tranchants de son esprit, il détruisit sa puissance et son royaume, et m'ayant fait témoin de la mort de la croix, il m'a aussi fait témoin de sa résurrection, si bien que dans une bonne mesure mon âme peut maintenant dire « je suis justifié en esprit », et bien que l'état de condamnation jusqu'à la mort fût glorieux, la justification pour la vie l'était, et l'est. Commentaire de l'éditeur du site « L'homme de péché est révélé, le fils de perdition, celui qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, au point qu'il est assis comme Dieu dans le temple de Dieu votre cœur, se proclamant lui-même Dieu. » 2 Thess 2:3-4 Cela se rapporte à l'esprit mauvais en vous, l'homme de péché, qui est révélé. Tout homme commence avec l'esprit de Satan semé dans son cœur. Cet esprit égoïste doit être crucifié avant que Christ puisse régner. Avant que Christ ne soit révélé, l'homme de péché est révélé, vous montrant toutes sortes de mal sur la terre, c'est-à-dire en vous, c'est l'abomination de la désolation, se tenant dans le temple de votre cœur, là où elle ne devrait pas être. Mais c'est la fin de votre moi charnel, car alors Christ vient et tue cet esprit résiduel de Satan en vous par l'éclat de sa venue, par son souffle et la splendeur de sa venue, en écrasant la tête de Satan sous vos pieds et le talon. Le jugement final, le vrai baptême du Saint-Esprit dans la mort du Christ, le baptême de mort, la participation à sa mort. Alors Jésus ressuscite en vous pour être votre véritable Seigneur, 2 Cor 4:14, Col 2, 11-12, 3, 1 F 2, 6, lui qui ordonne, commande, inspire toutes vos pensées, les paroles à prononcer et les actes à accomplir. Chapitre Yves le jeune courtisan quoique cet ordre, il y obéit et débarqua à Bristol, où il resta à quelques réunions pour se fortifier, sachant que son père ne serait pas très agréable avec lui. Josiah Cole l'accompagna à Londres et aussi à la maison de son père pour voir comment il serait vraisemblablement reçu. Son père garda son calme tant que Josiah Cole fut là, mais avant de se coucher, l'ayant entendu employer « Dis pour you », il se mit dans une grande colère. La conversation du père et du fils sur ce point se termina par ces mots du premier. Il pouvait dire « Thee ou Thou » à qui il voudrait, sauf au roi, au duc d'York et à lui-même. Ceux-là, il ne devait pas les tutoyer ainsi. Mais William ne voulut toujours pas laisser à son père l'espoir qu'il pourrait, en conscience, faire de telles exceptions. En le quittant pour la nuit, l'amiral, manifestant beaucoup de déplaisir, dit à son fils de se tenir prêt à sortir avec lui en coche le lendemain matin quand on viendrait l'appeler. William ne put dormir cette nuit-là, l'esprit troublé par le soupçon que son père avait décidé de l'emmener immédiatement à la cour, pour montrer à quel point un entourage mondain aiderait à chasser ses inclinations quakeuses. Quand le matin arriva, ils partirent ensemble en coche, sans que William sût où ils allaient, jusqu'à ce que le cocher reçût l'ordre d'entrer dans le parc. Il comprit ainsi que l'intention de son père était de s'entretenir en privé avec lui. Il commença par lui demander ce qu'il pouvait penser de lui-même, après avoir été élevé dans l'étude et les accomplissements de cour, sans qu'on eût rien épargné pour le rendre apte à occuper la fonction d'ambassadeur auprès des cours étrangères, ou celle de ministre dans son pays, pour qu'il devint maintenant quake. William lui répondit que c'était par obéissance à la manifestation de la volonté de Dieu dans sa conscience, mais que c'était une croix pour sa propre nature. Il lui rappela aussi cette ancienne réunion à Coque et lui dit qu'il croyait que lui-même, à cette époque, avait été convaincu de la vérité de la doctrine des Quakers, seulement, la grandeur du monde avait paru un sacrifice trop grand à consentir. Après d'autres échanges, ils reprirent le chemin de la maison. Ils s'arrêtèrent en route dans une taverne où Sir William commanda un verre de vin. Entrant dans une pièce sous ce prétexte, il verrouilla aussitôt la porte. Père et fils se trouvèrent alors face à face, sous l'effet d'un mécontentement sévère d'un côté, et de l'autre d'un sentiment de prière à Dieu pour avoir la force de résister ou de supporter ce qui venait. William, se souvenant de sa première expérience à son retour d'Oxford, s'attendait à quelque chose de désespéré. L'idée lui vint que l'amiral allait le frapper à coups de canne. Mais, au lieu de cela, le père, le regardant fixement et posant les mains sur la table, lui déclara solennellement qu'il allait s'agenouiller pour prier le Dieu Tout-Puissant que son fils ne fût pas Quake et qu'il n'assistât plus jamais à une réunion Quake. William, ouvrant la fenêtre à battant, déclara que, plutôt que d'écouter son père adresser une telle prière à Dieu, il sauterait par la fenêtre. À ce moment, un noble passait devant la taverne dans son coche et, voyant celui de ce William à la porte, il descendit. Dirigé vers la pièce où père et fils se trouvaient ensemble, son coup frappé arriva à temps pour éviter la catastrophe. Il avait manifestement entendu parler du retour de William et du vif déplaisir de l'amiral. Après avoir salué le premier, le manuscrit dit qu'il se tourna vers le père et lui dit qu'il pouvait s'estimer heureux d'avoir un fils capable de mépriser la grandeur du monde et de s'abstenir des vices où tant de gens se précipitaient. Ils rendirent visite, avant de rentrer chez eux, à un autre noble, et l'entretien avec lui porta aussi sur le changement de William. Là encore, le père fut félicité et la résolution du fils louée. Ces félicitations furent réconfortantes pour le jeune converti, quels qu'en fussent les effets sur l'amiral. Il semblerait que, plus longtemps qu'on ne le suppose généralement, William demeura sous le toit de son père après son retour d'Irlande, et qu'en fait il avait commencé à prêcher dans les réunions des amis et s'était fait connaître comme prédicateur Quake, avant que n'eût lieu son expulsion définitive de la maison. Vers l'année 1668, étant alors dans la 24e année de son âge, William Penn, après avoir traversé de profondes épreuves et probations, tant intérieures qu'extérieures, après s'être séparé de tout ce que le monde tient pour cher à cause du Christ, et avoir été rendu participant des puissances du monde à venir, reçut de la part du chef de l'Église le Christ lui-même, un don pour le ministère de l'Évangile de vie et de salut. Animé d'un ardent souci du bien éternel de ses semblables, le cœur réchauffé d'amour divin, étendu de bienveillance envers tous sans distinction de nom ni de parti, il devint un ouvrier zélé, infatigable et efficace dans la vigne de son divin maître. La lettre suivante, écrite à cette époque à une jeune personne de sa connaissance, montrera son souci des autres, sa simplicité chrétienne, et la lumière par laquelle il voit désormais, bureau de la marine, dit du 5e mois, 1668. Ami, c'était une parole vraie, prononcée par Jésus-Christ, pour détromper les Juifs insouciants et voluptueux parmi lesquels il manifesta sa glorieuse vérité, par ce corps préparé de Dieu à cette fin même, que la voie qui mène à la vie et au repos éternel est droite et étroite. Mon ami, combien il importe au salut de ton âme immortelle de réfléchir à la conduite de ta vie, au chemin où tu marches à présent, avant qu'un coup évident du ciel ne t'appelle d'ici et n'envoie ta chair et ton sang, si complaisamment ménagés, dans la tombe, pâture de vers immondes. Je t'implore, si tu veux être sauvé de cette angoisse indicible réservée aux gens du monde, et dont il n'est point de rédemption, de te garder de ces vanités, folies et souillures qui conduisent inévitablement à cet état misérable, hélas. Combien ta vie et ta conduite conviennent peu à celle de ces saintes femmes d'autrefois, dont le temps se passait principalement dans des retraites célestes, loin de ce vacarme, de ce bruit et de ces fréquentations où tu te trouves. Et peux-tu imaginer que ces saints hommes dont l'Écriture fait mémoire passaient leurs jours comme les galants de ce temps? Où est la vie de renoncement de Jésus, la croix, l'opprobre, la persécution et la perte de tout, qu'il a enduré lui et les siens, et qu'ils supportèrent très volontiers, les yeux fixés sur une substance plus durable? Bien, mon ami, sache-le, c'est à cela que tu seras jugé, et là-dessus ma conscience est née. De même que sans sainteté nul ne peut voir Dieu ainsi, sans soumission à cet esprit, cette lumière ou cette grâce dans le cœur, que Dieu dans son amour a fait apparaître à tous, et qui en sait à renoncer à toute impiété aux convoitises mondaines, et à vivre dans ce monde présent avec sobriété, justice et piété, dis-je, sans soumission à cela, il n'est point possible d'atteindre cette sainteté qui te donnera l'entrée en sa présence. Oui. Examine-toi, combien tu es éloigné de la conduite et des instructions de cet esprit de grâce, qui n'approuve pas qu'on se mêle aux sports, jeux et divertissements impies et vains, selon l'usage de ce siècle, ni qu'on se conforme à des coutumes ridicules, ni qu'on participe aux propos oiseux et aux plaisanteries vaines partout où l'on va, sans considérer qu'on rendra compte à Dieu de toute parole inutile prononcée. et que tous tes compagnons de débauche sachent que le jour approche où ils ne pourront soutenir la présence de celui qui siège sur le trône. Ce sera un temps d'horreur, de stupeur et de détresse. Alors ils sauront qu'il existe un juge juste et saint de tous. Quant à toi, ta condition m'inspire souvent de la pitié, et souvent je désire que tu fasses le bien. Mais tant que je te vois dans cet esprit astérisque qui goûte les délices de ce monde, la facilité, l'abondance et l'estime, négligeant l'unique chose nécessaire, j'ai bien peu d'espérance. Cependant, je ne pouvais laisser passer cette admonestation franche, et quelle que soit la place qu'elle puisse avoir dans tes pensées, je suis sûr qu'elle procède d'un véritable amour pour celui qui sera heureux ou malheureux pour toute l'éternité. Je n'ai pas cherché de beaux mots ni des expressions qui sonnent bien, la gravité, l'attention et la nature de mon sujet n'admettent pas de telles frivolités. En bref, mon ami, prends avis, sois sérieux et médite ce qui concerne ta paix éternelle. Retire-toi du bruit et du fracas des choses visibles qui tentent, pour contempler celui qui est invisible, afin qu'il règne dans ton âme, Dieu au-dessus de tout, exalté et béni à jamais. Adieu. Je suis ton ami sincère, qui te veut du bien. William Penn, presque aussitôt après s'être identifié à la Société des Amis, il se sentit appelé à défendre leurs croyances religieuses contre les attaques publiques. Cette année-là, Jonathan Clapham publia un ouvrage intitulé « A guide toute religion », dans lequel il exposait certains articles comme le véritable credo chrétien, déclarant tous ceux qui n'y adhéraient pas incapables de salut, et s'en prenant avec sévérité aux doctrines des Amis. William Penn, en réponse, écrivit « The Guide Mistaken », dont on extrait quelques passages. Vous ne devez pas, lecteur, conclure de mes questions que nous nions, comme il nous en a faussement accusé ces trois glorieux qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit astérisque ni l'infinité, l'éternité et la divinité de Jésus-Christ, car nous savons qu'il est le Dieu puissant, ni ce que le Père a envoyé son Fils accomplir en faveur de l'homme perdu, déclarant au monde entier que nous ne connaissons aucun autre nom par lequel vienne l'expiation, le salut et la rédemption abondants, mais que par son nom. Astérisque Penn défend un verset qui était manifestement absent des manuscrits bibliques plus anciens, prouvant que le manuscrit utilisé pour traduire la version King James avait été modifié par un scribe catholique romain, dont le nom Erasme est même connu, afin d'étayer la Trinité inventée par leur secte. Voir la note de bas de page 2 de ce verset dans la Nette Bible pour tous les détails. Sa prochaine accusation est qu'ils exaltent la lumière en tous les hommes comme la seule règle suffisante pour marcher, au détriment apparent des Écritures et de la prédication. Lecteur, si tu es encore étranger à cette lumière, permets-moi de te supplier de l'observer une fois en toi-même, et dis-moi ensuite si elle n'a pas cette qualité divine de discerner entre le précieux et le vil, et de manifester toute pensée, parole et action, si cela est agréable, ou le contraire au grand Dieu. S'il est criminel de reconnaître ces Écritures qu'il dit faussement que nous méprisons, alors le cas est différent. Sinon, nous confessons tous que Dieu est lumière et qu'il a éclairé tout homme, et qu'en prêtant attention à ses indications et en leur obéissant, nous pouvons être préservés dans cette capacité, comme l'Écriture le dit, ce qui nous introduira dans la pure communion et le sang de Jésus nous purifiera de tout péché. Ils ne reconnaissent pas non plus un principe dans les nuages, mais plus que tous, ils ont démontré la puissance et l'autorité de leur principe par la rédemption qu'il a opérée en eux et par la transformation qu'il a produite, les faisant passer de l'état qui exposait à nu leurs âmes immortelles aux pièges et aux entraves des gloires périssables de ce monde, à l'expérience du sang qui purifie de toute iniquité et à la paix indicible d'une parfaite réconciliation avec Dieu. Et quant à son affirmation assurée selon laquelle nous méprisons à la fois les Écritures et la prédication, voici ce que j'ai à dire. De même qu'il n'en est aucun qui leur montre plus de respect par une conformité de vie à ce qu'elles exigent, de même ils les listent et les citent en prédication ou déclaration aussi souvent que quiconque les professe comme règle. Sa cinquième réflexion est notre dénégation ouverte de la doctrine de la Trinité. Mais il me semble que celui qui reprend les autres de ne pas rendre aux Écritures le respect qu'ils leur doivent devrait être un peu plus exemplaire en employant leurs termes incontestables et une expression exacte, car j'ignore absolument qu'aucune Écriture mentionne le mot « Trinité ». Pourtant, si par Trinité il entend ses trois témoins dans le ciel le Père, la parole et l'Esprit, il aurait dû mieux se renseigner sur ce que nous désavons, au lieu de proclamer ainsi dans son ignorance notre dénégation ouverte de ce. Sa prochaine calomnie est la suivante. La personne de Jésus-Christ, quant à sa nature humaine, avec toutes les fonctions que son Père lui a assignées, il la rejette entièrement, quoique ce soit un secret tenu caché à leurs novices. Il insinue de dures pensées au sujet d'un peuple inoffensif, alors qu'en réalité ils ne reconnaissent aucun autre nom par lequel le salut soit obtenable que le Christ de Dieu, et toutes les fonctions qui lui ont jamais été assignées par son Père sont reconnues par eux. Et ils sont si loin de cacher leurs sentiments que quiconque assisterait à leurs réunions ou parcourait leurs livres verrait bientôt à quel point cette description de nous est éloignée de la vérité. Son prochain rapport est que nous n'invoquons pas Dieu au nom et par la médiation de Jésus-Christ, Mais lecteur, sois-en assuré, les Quakers n'ont jamais connu d'autre nom que celui de Jésus-Christ pour trouver grâce auprès de Dieu, et ce n'est que par Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, qu'ils espèrent la rédemption et peuvent recevoir la promesse d'un héritage éternel. Il dit encore, « Il ne se fit pas à sa mort pour le pardon et le salut, mais à une prétendue perfection sans péché. Ils sont si loin de renier la mort et les souffrances du Christ qu'il n'est pas, sur la terre, de peuple qui en témoigne et en démontre si sûrement la communion, confessant devant les hommes et les anges que Christ est mort pour les péchés du monde et qu'il a donné sa vie en rançon. Ils tiennent la perfection à l'égard du péché pour atteignable, parce que celui qui est né de Dieu ne pèche pas, et que rien d'impur ne peut entrer dans le royaume de Dieu, pas de couronne sans victoire, un peu de levain fait lever toute la pâte, l'homme fort doit être chassé. Paul prie pour qu'il soit sanctifié entièrement. Soyez parfaits comme Dieu est parfait, soyez parfaits, prenez courage, jusqu'à l'homme parfait, autant qu'il y en a qui sont parfaits, afin que l'homme de Dieu soit parfait, que le Dieu de paix vous rende parfait en toute bonne œuvre, que le Dieu de toute grâce vous rende parfait, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, oubliant ce qui est en arrière, poursuivons jusqu'à la perfection, et cela nous le ferons si Dieu le permet. Si la perfection était inatteignable, il serait étrange que les Écritures parlent d'un tel état, et tout à fait absurde que Paul, Pierre, etc., exhorte et prie si instamment pour les anciens saints afin qu'ils y parviennent, jusqu'aux esprits des justes parvenus à la perfection, non, il affirme positivement y être arrivé, à la Jérusalem céleste, à l'Église des premiers-nés, etc. La doctrine de la résurrection des justes et des injustes, du jugement dernier, du ciel et de l'enfer comme récompense future, il la croit et la confesse. Et comme témoignage fidèle tant de leur vie que de leur doctrine, je déclare et qu'on le sache de tous ceux qui m'ont connu, que lorsque les richesses indicibles de l'amour de Dieu m'ont visité, par l'appel de sa glorieuse lumière, me tirant des pratiques ténébreuses, des notions errantes et des vaines conversations de ce monde souillé, et que mon cœur en fut influencé et par conséquent disposé à le recevoir plus intimement et plus sincèrement, ces habitudes même que je jugeais jadis impossibles à abandonner ici-bas, et auxquelles je me permettais. Et, étant en mesure rachetée de ce sur quoi la malédiction est prononcée, je jouis sensiblement des bénédictions qui accompagnent la réconciliation. Et depuis que je suis familier de leurs principes, ai-je trouvé un seul article qui n'ait reçu un plein et satisfaisant assentiment de cette même grâce, de cet esprit ou de cette lumière de Dieu qui m'appela d'abord hors des impiétés grossières, des divertissements vains, des gloires tentatrices et des cultes de volonté de cette génération. De même que j'ai le sceau de l'esprit éternel d'amour de Dieu sur mon âme comme assurance infaillible, de même, depuis que j'ai commencé à les fréquenter et leur rassembler, j'ai observé cette conduite sainte, innocente et juste qui s'accorde avec la sévérité, la circonspection et la vie de renoncement de l'Évangile, et je témoigne, tel que révélé de Dieu que depuis ces siècles où l'apostasie a éclipsé la beauté de la lumière primitive, il n'y a pas une découverte aussi glorieuse d'un culte, d'une vie et d'une doctrine spirituelle. En bref, ils sont saints en principe, zélés pour Dieu, dévots dans l'adoration, ardents dans la prière, constants dans la profession, inoffensifs, exemplaires dans leur vie, patients dans les souffrants, ordonnés dans leurs affaires, sobres de paroles, ponctuels dans les transactions, miséricordieux envers leurs ennemis, renonçant aux délices et jouissances de ce monde. Et pour tout résumer, des étendards pour le Dieu du ciel contre l'orgueil, la cruauté, la luxure, l'avarice, etc. De cette génération sans Dieu, que ceux qui ne sont pas encore nés diront bien heureuses lorsque leurs témoignages seront achevés, et qu'ils seront rassemblés dans l'indicible consolation et la possession de la présence éternelle de Dieu. Partie de peine, le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant du pouvoir transformateur de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.